en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci Michel, merci Monsieur le Président. C'était normal de demander à un Alsacien qui a changé 5 fois de nationalité en 150 ans, sans jamais changer de ville, de traiter le sujet de la comparaison des performances de l'Allemagne et de la France. Et c'est vrai que simplement en franchissant de temps en temps le pont du Rhin, en allant à Kiel ou dans le bas de Wurtemberg, on a pu mesurer année après année, décennie après décennie, les performances étaient différentes, malheureusement, en notre défaveur. La démocratie française, mes chers confrères, semble marquée pour moi par une malédiction qui l'empêcherait de traiter les problèmes en temps et en heure. Voltaire aurait dit, c'est sans doute apocryphe, la France arrive toujours, la France arrive toujours en retard. Et je crains qu'en matière de réforme, ce qui a été dit semble vérifié. Le changement en France se produit toujours sous le signe de l'urgence et de la crise. Les problèmes à résoudre sont rarement anticipés et jamais traités à temps. Le traitement des problèmes, quels qu'ils soient, semble suivre un processus immuable. On nie le plus longtemps possible les problèmes, on les occulte, puis successivement, au fur et à mesure où ils s'aggravent, on s'évertue à les sous-estimer. On invoque surtout l'exception française pour montrer que ce qui marche chez autres pays, évidemment, ne peut pas s'appliquer aux nôtres. On multiplie commissions et rapports pour gagner du temps. On procède à des pseudo-concertations plus ou moins organisées. Et finalement, après avoir tergiversé pendant plusieurs années, on légifère dans la précipitation avant de publier une réglementation tatillonne en multipliant décrets et arrêtés. Tous les arguments, lisez d'ailleurs la presse, tous les arguments sont bons en France pour ne pas traiter les problèmes quand il faudrait les traiter. Vous voulez mettre tout le monde dans la rue, argument très scientifique comme vous pouvez vous imaginer. La France n'est pas prête, on affirme, et dans ce cas-là, faites attention, comme si elle devait attendre d'être mûre. Vous voulez vraiment faire sauter le gouvernement? La réponse, dans certains cas, oui, évidemment, mais ce n'est pas la question. C'est un dossier pour après les élections. Et argument suprême, souvenez-vous de 95 qui permet d'enterrer toute velléité de procéder à une réforme fondamentale. La réforme en France est souvent anxiogène car elle est mal préparée, elle est mal expliquée la plupart du temps, en tout cas elle est toujours mal assumée. Et on recourt trop souvent à la mettre sur le compte de bouc émissaire bien connu que l'on va vouer aux gémonies. Citons pêle-même l'Europe et sa commission, bouc émissaire facile lorsqu'on est obligé de faire une réforme, la monnaie unique, maintenant accusée de tous les maux, regardez le débat politique actuel, la globalisation, difficile de cerner exactement ce qu'on voit derrière ce bouc émissaire un peu protéiforme, le patronat, bien entendu, la pensée unique lorsqu'il s'agissait de procéder à la désinflation compétitive, et puis la Chine, les élites, les marchés, le libre-échange, le capitalisme, sans oublier, bien entendu, le diktat allemand. Et regardez chez les candidats à l'heure actuelle à la présidence de la République, le nombre qui explicitement font d'un anti-germanisme une partie de leur fonds de commerce politique, en parlant par exemple du hareng de Bismarck. Omniprésent dans tous les discours politiques, la réforme est un mot valise, car on peut y mettre beaucoup de choses différentes, y compris des anti-réformes. Et c'est un de nos problèmes en France. Beaucoup de soi-disant réformes ont été prises en France au cours des passés à contre-temps de l'histoire. Alors, est-ce que ce sont des réformes ou des anti-réformes? Pour moi, ce sont des anti-réformes. Abaissement de l'âge de la retraite, alors que le vieillissement s'accélérait. C'est une anti-réforme, on appelle ça une réforme. Ça a contre le sens de l'intérêt du pays. Bien, réduction du temps de travail, alors que l'on passait à la monnaie unique. Tout à fait contradictoire. Il fallait faire l'un ou l'autre, mais pas faire les deux. Bien entendu, alourdissement des prélèvements obligatoires, alors que la globalisation battait son plein. Augmentation du coût du travail, alors que les besoins de compétitivité se faisaient pressants. Donc, faisons attention à ne pas appeler de temps en temps réforme des choses qui sont, à mon avis, complètement contraires aux intérêts de l'histoire et du destin de notre pays. Les réformes nécessaires, j'ai dit, sont-elles rarement assumées, portées, justifiées? Elles sont souvent bâclées, inachevées, ce qui veut dire que les problèmes que l'on est censé avoir traités vont réapparaître, bien entendu, naturellement, à refaire surface. Et la France se caractérise par le pays où il y a eu le maximum de plans d'urgence et de plans de crise. Il y en a eu dans tous les domaines, de manière convulsive. Notre démocratie engendre un plan d'urgence, vous voyez, que ce soit pour l'agriculture, la pêche, les banlieues, les universités, l'enseignement primaire. Nous avons même fait un plan d'urgence sur les urgences à l'hôpital, ce qui montre que l'urgence est véritablement commune. Donc nous faisons des plans d'urgence. On a par exemple l'année dernière, en 2016, pas moins de 5 plans d'urgence pour les artistes en France. Vous les avez pas tous notés, mais qui montrent que les priorités sont là. Nous avons, en plus de 20 ans, adopté 6 plans de réforme des retraites, ce qui montre que forcément il y en avait peut-être 5 de trop ou une qui n'était pas assez. Nous avons, c'est un record en Europe et dans le monde, au point que rares sont les Français qui sont aujourd'hui capables de dire dans quelles conditions ils pourront partir à la retraite et d'anticiper correctement ce départ. Bien entendu, on n'a pas résolu la question fondamentale qui était l'alignement des régimes de retraite spéciaux sur le régime général, mais ceci sera sans doute pour la législature qui commence en 2053. Frankreich ist nicht reformierbar. C'était le gros titre, la France n'est pas réformable, titrait il y a peu la Neue Zürcher Zeitung. Il faut l'entendre dans un double sens. D'une part, la France serait arthritique et sclérosée, ne serait plus capable de faire des vraies réformes, elle n'aurait plus la volonté, elle n'aurait plus l'ambition, elle n'aurait plus le courage de se transformer. Nicht reformierbar, il n'y a plus là une volonté, une puissance, une ambition de réforme. Et puis d'autre part, on ne saurait pas faire de vraies réformes. La France n'en serait incapable. Elle n'aurait pas la technologie nécessaire. Ça se répand. Réformer, c'est de la technologie, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Les blocages seraient trop puissants et on ne parviendrait pas à les lever. Un de mes amis disait toujours, en France, il y a ceux qui poussent à la roue de la réforme et ceux qui mettent des bâtons dans la roue de la réforme. Et il ajoutait que Dieu avait se trompé dans les proportions dans notre pays. Donc, disons-le, la réforme à la française, tardive, traumatique, inachevée, ne fonctionne pas. Et voilà ce que pensent nos partenaires européens. Lisez la presse, non seulement allemande, mais lisez la presse anglo-saxonne, ou notamment scandinave, et vous découvrirez ce constat assez triste. Et chaque rapport du FMI, de l'OCDE ou de la Commission, qui compare les pays les uns aux autres, insiste, sans trop d'illusions, sur le besoin impérieux de procéder aux fameuses réformes structurelles, et en même temps laisse passer, laisse planer le doute sur notre capacité à les mener. Pendant ce temps-là, l'histoire avance. Personne au monde ne nous attendra. Dans le monde actuel, les États-nations sont en compétition les uns avec les autres pour attirer talents, inventeurs, capitaux, investissements, projets, chercheurs, artistes, que sais-je encore. Et la compétitivité globale signifie que toutes les dimensions d'un pays contribuent à déterminer sa position, son rang et son destin dans le monde. L'efficacité de son système judiciaire joue un rôle très important. L'efficacité de son système éducatif, bien entendu, la qualité de ses infrastructures, la profondeur de son dialogue social, le bon fonctionnement de ses administrations, et j'en passe. Et lorsque toutes ces dimensions de notre organisation collective ne sont pas au niveau d'efficience les plus élevés, ceci se traduit naturellement, inéluctablement, par un ralentissement à la création de richesses, une stagnation de bien-être économique et social, un déclassement progressif du pays par rapport à ses partenaires, et un malaise social qui s'installe, se généralise, avec des conséquences politiques, et notamment la montée du populisme, qui est malheureusement le signe de cette maladie grave de notre incapacité de nous réformer en temps et en heure. Ordolibéralisme ou keynésianisme socialisme, c'est en fait la question qui se pose lorsque l'on compare l'Allemagne d'un côté, qui répond à l'ordolibéralisme, et la France qui a été frappée ou placée sous le signe du keynésianisme socialiste. Ce qui frappe lorsque l'on compare les destins de l'Allemagne et de la France, c'est pour moi l'absence de projet collectif de notre pays, de vision d'ensemble, d'ambition partagée de la France, particulièrement depuis le début des années 80. Il s'est passé une rupture dans notre pays. Nous avions auparavant véritablement une volonté, une ambition qui semble avoir disparu, en tout cas s'est affaiblie au début des années 80. À la suite de sa perte de puissance politique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a très vite décidé de devenir une puissance économique. C'était clair, on a perdu la partie politique, et bien gagnons la partie économique. Ce qui signifie, autre rein, devenir une puissance industrielle. Redevenir une puissance industrielle, l'Allemagne l'était déjà. C'est par la production de richesses, c'est très simple, c'est par sa compétitivité, c'est par les exportations que passe la renaissance de l'Allemagne. C'est relativement simple à dire, et ce projet de puissance économique est passé par deux voies. pour l'Allemagne. La première voie est la recherche de la compétitivité du site de production allemand. C'est un concept extrêmement important. C'est pas l'Allemagne, c'est produire en Allemagne. Les entreprises allemandes peuvent produire en dehors de l'Allemagne. Là, il s'agit d'être sûr que les entreprises allemandes ou non allemandes viennent choisir le site de production allemand, c'est-à-dire le territoire qui s'appelle l'Allemagne. Et évidemment, il faut faire pour ça des choix industriels adéquats. Il y a une recherche obsessionnelle de la qualité, puisque pour devenir une puissance industrielle, il faut s'imposer sur les marchés. Et il y a un impératif absolu de productivité. Il y a aussi une passion de la technologie, notamment mécanique, ce qui va se traduire par une capacité à imposer ses produits sur les marchés étrangers. Et in fine, c'est clair lorsque l'on regarde la conception politique allemande, la balance commerciale et la balance des paiements sont juges de la puissance économique retrouvée. On ne peut pas être puissant et riche avec des déficits extérieurs, que ce soit en termes de balance commerciale, les biens et services, ou en termes de balance des paiements, c'est-à-dire les flux de capitaux. Donc il s'agit absolument que le site de production allemand soit compétitif pour y localiser des activités, pour y localiser des investissements et pour y localiser des emplois. C'est une offre productive qui est privilégiée et c'est l'approche économique suivie par notre principal partenaire. La seconde voie de restauration de la puissance économique réside dans la force de la monnaie et la stabilité des prix. Je veux dire, dans l'ordolibéralisme, l'inflation et les désordres monétaires de l'entre-deux-guerres en Allemagne ont eu des conséquences politiques désastreuses. Et donc, là aussi, il y a consensus en Allemagne. La force de la monnaie et la stabilité des prix résultent de la conjugaison d'excédents extérieurs, je viens d'en parler, qu'ils soient commerciaux ou qu'ils soient monétaire, et de la maîtrise des finances publiques. Et donc, voilà, le bloc, il est fait. Puissance industrielle autour de la qualité de l'investissement et de la compétitivité. Stabilité des prix, absolument fondamentale. Force de la monnaie, parce que ça va assurer la puissance économique. Et mes amis ici, Jacques de la Rosière et Jean-Claude Trichet, connaissent sans doute ces aspects mieux que moi de cette espèce de discipline monétaire qui a caractérisé l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont ces deux indicateurs qui sont ceux de la prospérité retrouvée. Dès cette époque, l'économique prévaut in fine sur le social. L'intérêt des entreprises en Allemagne coïncide avec celui de la nation. Le secteur productif est le vecteur de développement du pays. Les réussites industrielles sont célébrées. Et la prospérité, ça a été sous-jacent à la période après-guerre, permettra un jour d'utiliser les ressources accumulées par l'Allemagne pour financer l'unité retrouvée du pays. On attendait ce moment-là, il s'est produit en 89. Au travers de la réunification des deux Allemagnes, intervenue en 1990, et ce qui fut espéré advint. L'Allemagne s'était préparée pour cette grande mouvement historique de la fin du bloc de l'Est. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ordolibéralisme, la fameuse école de Fribourg, qui en philosophie rassemblait Heidegger et Husserl, excusez du peu, a été la doctrine sous-jacente de cette vision. Je cite, cette école insiste avant tout sur la nécessité de l'organisation économique et sociale, substituée à la direction par nature plus ou moins arbitraire de l'État dirigiste et interventionniste. L'idée centrale de l'ordolibéralisme est l'établissement d'une constitution économique et sociale, déterminant les libertés, mais aussi les règles auxquelles chacun doit se soumettre, les opérateurs privés et publics. Entre la dictature du socialisme et l'anarchie du libéralisme ancien, il s'agit de créer un état de droit économique et social cohérent avec un régime politique constitutionnel. Voilà exactement les fondements, j'allais dire, de la doctrine économique et politique allemande telle qu'elle était pensée dès 1945, d'ailleurs, rejetant bien entendu l'approche d'avant-guerre, ce qui était un impératif catégorique. Quel contraste avec notre pays pour lequel il est difficile depuis les années 80 de déterminer les fondements, les principes ou les ambitions de notre projet collectif. Le modèle économique et social français auquel il fait référence dans les débats politiques actuels, quand on les regarde bien, renvoie encore aujourd'hui au programme du Conseil national de la Résistance. Ça remonte à 73 ans et le modèle social tel qu'on le décrit en France fait toujours référence à cette période d'immédiate après-guerre, voire même de fin de la guerre, époque où les chars russes étaient à deux étapes du Tour de France de Paris, que le déclarait le général de Gaulle. Les seules sources d'inspiration économique sont en France keynésiennes ou néo-keynésiennes ou post-keynésiennes, teinté d'un espèce de marxisme qui a été abandonné partout. Mais quand vous regardez notre, dans la Vulgate, les approches telles que nous les avons menées, il y a tous les tenants d'une espèce d'interventionnisme dans lesquels la monnaie un peu laxiste, le déficit que l'on laisse filer, la relance de la consommation, beaucoup de redistribution permettent d'améliorer le bien-être collectif. Et c'est, je pense, l'erreur qui a été faite. En France, les gains de productivité sont redistribués avant d'être créés. Les priorités de la redistribution dominent les impératifs de la production, qui est toujours seconde. Le secteur public hypertrophié est privilégié et prioritaire. Regardez les 50-70 dernières années. La compétitivité, surtout, peut s'obtenir par la dévaluation, puisque à l'époque, on osait qualifier de dévaluation compétitive, en fait, le fait que nous subissions une loi des marchés qui nous punissait. Nous avons eu 7 dévaluations depuis juin 58. On peut plus en avoir grâce à la monnaie unique. Je prédis simplement que si nous sortions de la monnaie unique, nous aurions une 8e dévaluation immédiate, voire même une 9e ou une 10e. Mais pour le moment, grâce à monnaie unique, depuis avril 1986, nous n'avons plus une dévaluation. Je rappelle simplement que si on prend une période plus longue, depuis 1928, la France a eu 18 dévaluations, ce qui montre que nous avons, parce que nous étions incapables de dégager des gains de productivité réels, nous les avons obtenus par la faiblesse de notre laisser notre monnaie filer, qui était, encore une fois, le signe de notre maladie. L'inflation est un moindre mal en France. Le dialogue social est national et centralisé. On se méfie beaucoup des partenaires sociaux, notamment dans l'entreprise. L'absence de vision moderne est particulièrement cruelle depuis le début des années 80 et explique notre décrochage par rapport à l'Allemagne. Je le maintiens. La vision économique et industrielle de la reconstruction, gaulliste, pompidolienne, barriste, disparaît avec l'alternance de 1980, n'a pas été remplacée depuis cette période-là. Le divorce entre la nation et ses entreprises a été consommé à cette date-là. Les entreprises sont considérées comme responsables du chômage et des difficultés sociales. L'État, quant à lui, est présenté comme l'alpha et l'oméga du bien-être social. Les entreprises, surtout les grandes, doivent être nationalisées. Nous sommes en 80-82. Les autres contrôlées, ponctionnées, encadrées. Et au principe d'accumulation qui avait présidé aux 30 glorieuses et substitué le principe généralisé de répartition. On répartit le temps de travail par l'abaissement de l'âge de la retraite, nous sommes en 1982, répartition de revenus par la hausse permanente du SMIC, répartition du revenu par la taxation toujours plus forte des moyens et des hauts revenus, et les 5 dernières années ont continué absolument dans cette voie. Taxation accrue du patrimoine et de l'épargne, ISF, impôt sur les plus-values sur les successions, multiplication des transferts sociaux, passage du système commutatif où les droits sociaux sont issus du travail au système distributif, où les droits sont issus de la simple citoyenneté, et les projets à l'heure actuelle que l'on voit dans une partie du spectre politique qui prévoit un revenu universel indépendamment de toute activité à l'activité productive, est véritablement pour l'épigone de cette vision sur laquelle on peut distribuer des revenus sans que nulle part il y ait une contrepartie sous la forme de travail ou sous la forme de contribution fiscale. Et donc toutes ces opérations de répartition ne reposent pas sur des gains de productivité, se sont traduites à l'époque par une inflation record, un creusement des déficits publics et de la balance commerciale, ainsi que la balance des paiements courants et les dévaluations successives de notre monnaie. Regardez notre histoire jusqu'aux décisions courageuses, enfin de passer des dévaluations compétitives à la désinflation compétitive. Et ça a été un basculement extraordinaire. Et je salue ceux qui, dans cette salle, se sont attachés à cette tâche de convaincre une partie des Français d'envisager enfin d'arrêter la stratégie qui était absolument suicidaire, qui a été suivie par notre pays pendant toute cette période. Alors, voilà où nous en sommes. Bien entendu, ces dévaluations étaient la trace évidente de notre impéritie collective. Mais le mal était fait. Nous n'avons jamais remonté les marches historiques, je le maintiens. Nous n'avons pas remonté les marches historiques qu'on a descendues à cette époque des années 80, de grand amateurisme économique et financier, à rebours de la marche générale du monde. Regardez ce qui se passait à l'époque au Royaume-Uni, regardez ce qui se passait aux États-Unis, regardez ce qui se passait dans les pays scandinaves. À un moment où, effectivement, les pays se mettaient au diapason du monde, nous avions décidé d'aller à rebours de l'histoire. Et que voulez-vous, ceci a des traces encore vivaces aujourd'hui. La sous-performance de la France par rapport à l'Allemagne est indiscutable, c'est pas à peine de le nier. Au cours des dernières décennies, toute étude comparée entre la France et l'Allemagne témoigne d'un décrochage de notre pays, visible tant en termes de production de richesses qu'en termes de finances publiques, de compétitivité internationale et de formation, qui était la question que Michel m'a posée. La création de richesses est moindre en France qu'en Allemagne, vous avez des graphiques. Quand on regarde, par exemple, le produit intérieur brut par tête, c'est-à-dire la richesse par tête de la France et de l'Allemagne, eh bien, les divergences sont profondes. Au début, c'est le graphique 1, on suivait à peu près l'Allemagne, et c'est vrai que pendant une période, nous étions en ligne, et tout d'un coup, on a une série de décrochages, de divergences. La première, entre 82 et 91, tenez-vous bien, époque durant laquelle le PIB français par habitant perd 8 points par rapport au PIB allemand. C'est ce qu'on appelle vraiment un décrochage très fort. La seconde divergence a lieu entre 2004 et 2014, au cours quasiment des 10 dernières années, où pour une seconde fois, le même indicateur de PIB par habitant perd 9 points. Moins 8, moins 9. Voilà ce que j'appelle les marches de l'histoire, où nous descendons, nous décrochons comme des paliers par rapport à notre principal partenaire commercial et politique, qui s'appelle l'Allemagne. Aujourd'hui, le PIB par tête en Allemagne atteint 37 910 euros, alors qu'en France, il n'est que de 34 516 euros. Il y a une trentaine d'années, les deux PIB par tête étaient identiques de part et d'autre du Rhin. Je rappelle que l'Allemagne a assimilé, intégré l'Allemagne de l'Est, qui a été vraiment extraordinaire, que ceci a coûté 4% du PIB par an. C'est une charge extrêmement lourde que d'arriver à remettre à niveau tout un pan de l'Allemagne qui était de l'autre côté, malheureusement, de l'histoire, puisque c'était la partie annexée en 1945. Alors comment s'explique ? Le taux de participation à l'activité productive a baissé en France et augmenté en Allemagne, ça c'est absolument fondamental. Depuis 2004, et vous le voyez sur le graphique 2, la population en âge de travailler augmente plus rapidement en France qu'en Allemagne, donc on a de la chance, on a de plus en plus de générations nombreuses, le vieillissement de l'Allemagne est supérieur au nôtre, mais malheureusement le taux d'emploi baisse en France, il y a plus de personnes mais ils travaillent moins, alors qu'au contraire il augmente en Allemagne, donc on a une bonne nouvelle. Il y a plus de Français en âge de travailler, et immédiatement une mauvaise nouvelle, mais ils travaillent moins que ce qui se passe en Allemagne. En effet, la participation à l'activité productive des deux pays a suivi deux évolutions radicalement différentes depuis octobre 1990, date de la réunification allemande. Le nombre de Français en âge de travailler a cru de 15% au cours de ce dernier quart de siècle, on applaudit, soit 10 points de plus que chez notre voisin allemand. Mais la France, et c'est paradoxal, avec une population en âge de travailler qui croît plus rapidement qu'en Allemagne, travaille moins, produit moins. Et c'est le paradoxe qu'il est facile de résoudre. Il suffit de regarder les taux de participation à l'activité productive et on constate que depuis 2004, l'Allemagne a considérablement augmenté le taux de participation à l'activité de sa population, alors que la France a vu ce même taux de participation stagner. C'est le graphique 4. Et la divergence est extrêmement forte, que vous le constatez, à partir de 2004, c'est-à-dire la suite des lois Hartz en allemand, c'est-à-dire des décisions courageuses de M. Schröder, qui consistaient à redresser l'offre de travail, la participation au marché du travail, la participation à l'activité productive de l'autre côté du Rhin. En Allemagne, ce sont à la fois les jeunes qui travaillent plus et les seniors qui travaillent plus. En France, on a décroché dans ces deux segments-là. Moins de jeunes travaillent par rapport à l'Allemagne, moins de seniors participent à l'activité productive, et globalement, c'est également le cas. Bien, lorsqu'on met plus de gens dans l'activité productive, ça contribue à la création de richesses, et ça réconcilie ce paradoxe. L'Allemagne vieillit plus que nous, mais elle produit plus que nous. Tout simplement parce qu'on y travaille plus, et on a compensé par plus d'activité le fait qu'il y avait moins des classes d'âge moins fournies que par là. C'est vrai, constatons-le, en France, depuis 1981, je ne sais pas pourquoi cette date me vient à l'esprit, on a dévalorisé et découragé le travail en France, on a créé un secrétaire d'État au temps libre. C'est quand même une grande première mondiale, j'ai vérifié, aucun gouvernement au monde n'a créé un secrétaire d'État au temps libre, pourquoi pas, mais enfin, on l'a valorisé, encouragé en Allemagne, surtout depuis le début des années 2000. Si vous voulez, ça c'est un problème de choix collectif et de valeur. Le travail reste une valeur outre-Rhin, et le travail était collectivement considéré comme une nuisance, il fallait le réduire, souvenez-vous des projets, non seulement des projets devenus réalité malheureusement à la fin des années 90, et depuis on n'est pas revenu dessus, qu'on ne raconte pas l'histoire, on aurait pu dire voilà, on s'est trompé, de même que d'ailleurs le redressement de l'âge de la retraite ça a été fait en 82, et nous sommes toujours pas au niveau de l'Allemagne, nous ne sommes même pas au niveau où nous étions en 82, puisque je rappelle que c'était 65 ans, et que nous n'avons toujours pas, mais ce qui est complètement pour moi difficile à accéder, 18 plus 16 ans, que l'on ne soit pas revenu à un âge normal de retraite de 65 ans, sachant qu'outre-Rhin, ils sont déjà nettement au-dessus. Le taux de chômage en Allemagne a fortement baissé depuis 2004, alors qu'il a augmenté en France pour atteindre actuellement 9,7% de la population active. Les réformes Schröder-Hart, à partir de 2004, ont porté leurs fruits. C'est des réformes réussies, c'est ce que j'appelle, c'est pas des anti-réformes, c'est des réformes réussies. Et le taux de chômage est revenu en Allemagne de 11,2% en 2005 à 4,1%. C'est un message d'espoir, c'est un message extrêmement optimiste. Si on se donne les moyens, on peut réduire durablement et de manière extrêmement significative, puisqu'on divise par deux, le taux de chômage, avec ensuite tous les effets bénéfiques, bien entendu, sur la croissance politique, sur le malaise et sur l'anxiété et les difficultés d'une partie de la population. Nous, nous avons augmenté notre taux de chômage sur la même période de 8,9 à 9,7%, et ça a continué au cours de ces cinq dernières années, comme vous le savez. Cette évolution contrastée de la France et de l'Allemagne démontre, s'il en était besoin, que les politiques de flexibilisation du marché du travail, puisque c'était ça les lois Hart, loin de déstabiliser le marché du travail, comme on aime à le répéter en France, la flexibilité va créer du chômage, mais c'est exactement l'inverse, la flexibilité détruit le chômage et restaure un équilibre entre offre et demande d'emploi. Ceci était une évidence, mais elle est démontrée par notre voisin, ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes pas parvenus à maîtriser nos finances publiques, et c'est un sujet cher à notre président. Contrairement à l'Allemagne, toujours sur la même période, là aussi le contraste est absolument saisissant entre la France et l'Allemagne. Les finances publiques françaises n'ont pas arrêté de se dégrader depuis une vingtaine d'années. Depuis 1973 en réalité, mais après ça se poursuit. Chaque année a été marquée par un déficit budgétaire, bien éloigné des critères de Maastricht. On s'est engagé à les respecter en 1992, le cœur sur la main. On y est arrivé juste pour passer, se qualifier pour l'euro. Et immédiatement après, dès 2002, on a relâché tout ceci. Et ça, ça a été sans doute, à mon avis, un drame que d'avoir demandé à l'Allemagne en 2002, et surtout qu'elle ait accepté de relâcher le critère de déficit, puisque dès qu'en France, on donne un degré de liberté, on en prend deux, et si on nous en donne deux, on en prend trois. Résultat, on s'est éloigné des critères de Maastricht. La dette des administrations publiques françaises s'élève aujourd'hui à 97,9% du PIB. On tangente une année de revenu national, et on va y aller, à mon avis, si rien n'est fait pour pouvoir l'empêcher. Alors que les Allemands ont su contenir la dette allemande à 68% du PIB. C'est 8% au-dessus de Maastricht. Mais ils y convergent, parce que dès maintenant, ils remboursent leurs dettes, dès l'heure actuelle. L'Allemagne a un excédent budgétaire. Cet excédent budgétaire sert à rembourser la dette. Ils veulent revenir. Ça, c'est l'ordolibéralisme, pour ceux qui connaissent la culture allemande. On s'est engagé à être à 60%. On va revenir à 60%. On a divergé. Entre-temps, ils ont quand même financé la réunification de leur pays, en dépit donc de ce poids très important. Donc la divergence est là. On augmente notre dette. Ils réduisent leur dette. Ils ont un excédent budgétaire, on a un déficit budgétaire, et nous avons la même monnaie. Et on sait qu'à terme, ces divergences économiques, on a la même monnaie, peuvent poser des problèmes relativement importants. Nous sommes éloignés des critères de Maastricht. Le déficit public perdure en France. Et à écouter le débat politique à l'heure actuelle, je veux dire, je frémis de voir que, de nouveau, le déficit est un benign neglect, comme diraient nos amis anglo-saxons, qu'il n'est pas trop grave, que ceci n'est pas vraiment une nécessité, et ceci aurait des conséquences, à mon avis. Nous sommes, à l'heure actuelle, le dernier pays que la Commission européenne a mis en procédure dite de déficit excessif. Il n'y a plus un pays qui soit comme nous, soumis à des règles européennes de la Commission qui nous disent de attention, et nous avons normalement, nous sommes en situation jusqu'en 2018 rendre compte à l'Europe, à la Commission européenne, de nos finances publiques, ce qui est à mon avis pour un pays qui se veut indépendant et un grand pays relativement infamant, mais nous avons qu'à battre notre coulpe. En 2015, le déficit public de la France dépassait encore 3,5% du PIB, alors que l'Allemagne a dégagé un budget excédentaire pour la seconde année consécutive. Je le maintiens, il y a là quelque chose de fondamental. Le pire, c'est qu'en France, on a encore un déficit public, alors qu'on a eu un choc fiscal sans précédent en 2012-2013, dans lequel, pour réduire les déficits, plutôt que de baisser les dépenses de l'État, on a augmenté la pression fiscale sur les entreprises et sur les ménages. Quel gâchis pour moi. La France abordait les années 2000 dans une meilleure situation des finances publiques que l'Allemagne, dont les comptes étaient encore pénalisés par la réunification. Et maintenant, c'est l'inverse. Nous avons détruit tout cet avantage en 15 ans, sans doute par une impéritie et peut-être une forme de laxisme tout à fait préoccupant. La compétitivité de la France est dégradée pendant cette période, alors qu'elle de l'Allemagne s'est renforcée. Ça se voit partout. En termes d'échanges commerciaux et de compétitivité internationale, la situation française s'est dégradée depuis le début des années 2000, alors que la balance des paiements courants française était excédentaire en 1999, plus 3,4% du PIB. Elle s'est détériorée depuis cette date. La France présente aujourd'hui un solde négatif de ses paiements courants depuis bientôt 10 ans. À l'inverse, la balance allemande des paiements courants a été sans cesse excédentaire depuis le début des années 2000 et le solde atteint désormais plus de 8% du PIB intérieur. Enfin, le contraste est encore saisissant. Vous avez une économie adaptée au monde qui dégage des excédents et vous avez une économie en retard sur la globalisation et sur le monde qui a maintenant des déficits qui s'accumulent. Heureusement que nous sommes en zone euro, parce que si nous n'étions pas en zone euro, nous aurions là aussi les conséquences en termes de dévaluation de notre monnaie. Oui, la France a bien vu sa compétitivité internationale se dégrader, c'est malheureux. Ça se voit au niveau des investissements étrangers. Un seul chiffre, en 2015, 598 projets internationaux sont installés en France, contre 946 en Allemagne. Donc, l'écart est encore considérable. C'est ça ce que j'appelle un site de production attractif. C'est quand les gens qui ont la liberté de s'implanter dans divers pays choisissent tel ou tel endroit plutôt que tel autre. C'est des chiffres qui sont probants, c'est du simple au double, c'est pas marginal. Encore une fois, nous sommes dans la même zone monétaire. Et ces emplois en Allemagne ont créé beaucoup plus d'emplois par investissement que les investissements qui sont venus accueillir chez nous. Donc on a un problème, ce problème est bien connu. Les écueils, c'est le niveau des charges, les coûts salariaux, les charges fiscales des entreprises, l'instabilité fiscale et sociale permanente. Un chef d'entreprise passe son temps à vérifier les derniers états du droit fiscal ou du droit social, et bien entendu l'absence de flexibilité du droit social. Conclusion. Une richesse par tête inférieure, un déficit public persistant, un chômage nettement plus important, du simple au double, des soldes extérieurs déficitaires, la France a bel et bien des performances nettement inférieures à celles de l'Allemagne. Le vrai décrochage, il s'est fait dans les têtes en 1999 pour moi. C'est au moment où le SPD allemand, s'alliant à Tony Blair, décide de publier un manifeste, le fameux manifeste Blair-Schröder. Il est important parce que c'est le Bad Godesberg de 1925 nouveau dans lequel le New Labour et le SPD déclarent des choses qu'on n'avait pas entendues de la part de la partie gauche social-démocrate, j'allais dire aux socialistes, en Europe. Je vais citer simplement un extrait de son préambule. Blair Schröder, nous devons mettre en œuvre nos politiques dans un cadre économique nouveau, moderne et harmonisé avec le monde contemporain, dans lequel les gouvernements mettent tout en œuvre pour soutenir les entreprises, sans jamais s'arroger le droit de se substituer à ces dernières. Les mesures politiques doivent être complémentaires par rapport au rôle essentiel que jouent les marchés et contribuent à l'améliorer, mais sans l'entraver. Ceci est signé par les deux leaders, sociaux-démocrates allemands et anglais. Et donc, on propose ce texte au Parti socialiste français, M. Jospin et M. Hollande, qui ont refusé de signer un texte pareil, considérer, relisez les déclarations de l'époque comme un brûlot, je veux dire, très honnêtement. Schröder et Blair auraient pu être brûlés en place publique si ce manifeste avait été publié à l'époque en France. Gerhard Schröder met en œuvre cette politique. Il la signe, il la met en œuvre à partir de 2002 avec beaucoup de détermination. Et les mesures Schröder et Hartz, qui sont inspirées de ce manifeste très important, ont eu les effets escomptés, comme j'ai vu. On a vu remonter l'Allemagne dans tous les classements. On a vu l'Allemagne retrouver productivité et compétitivité. Il y a eu une rénovation profondeur, notamment de ses politiques sociales, alors même qu'elles étaient supérieures aux nôtres. Donc c'est là où l'écart diverge. Ils ont fait des efforts que nous n'avons pas fait à l'époque. Et je pense qu'il y a là ce tournant-là que la France n'a pas pris. Et c'est Mme Merkel qui a bénéficié, aux ironies de l'histoire, si on le veut, des réformes courageuses de Gerhard Schröder, qui lui coûtèrent la chancellerie. Il a perdu le pouvoir, mais il a laissé en Allemagne une situation qui s'est révélée tout à fait favorable, en tout cas, comme le montrent tous les chiffres. Donc, quant à la France, moi, je maintiens qu'elle a accumulé les retards depuis cette date. Elle a relâché la discipline budgétaire. Les réformes structurelles, comme je l'ai dit, étaient relativement inachevées, en tout cas insuffisantes. Il suffisait d'ailleurs de regarder ce qu'ont fait les autres pays. Nous n'avons pas voulu. Alors là, pour des raisons que vous avez sans doute plus de sagacité que pour moi, que moi à trouver. Alors, il faut maintenant procéder résolument et sans délai à une profonde transformation de notre pays. L'histoire avance et on a décroché des marches. Il ne faut pas mettre les bouchées doubles, il faut mettre les bouchées triples. Parce qu'on a un retard, mais les autres pays continuent d'avancer. Donc, on ne peut pas se permettre, si vous voulez, de... Il faut se mettre en danseuse, je dirais, si vous devez prendre une... Et pédaler très fort pour rattraper le peloton, parce que lui continue à avancer. Pour moi, ça fait longtemps que la France ne s'est pas posé la question de son projet véritable. Le débat politique continue de tourner autour des moyens plutôt que des fins. Et ce à quoi j'assiste à l'heure actuelle, du nombre de fonctionnaires en soi, c'est pas une fin, si vous me permettez, on discute de tas de choses. Mais quand c'est que le pays décidera de se redonner une doctrine pour savoir quel est le projet mobilisateur qui permettra... Moi, je vois dans la politique que des traces administratives dans lesquelles on multiplie des mesures, mais dans lesquelles le peuple, très honnêtement, se retrouve... peu, à mon avis. Ça fait 38 ans que Michel Crozier a publié son ouvrage où il affirmait qu'on ne change pas la société par décret. Je propose une réédition. Donc, la formulation d'une vision pour notre pays est d'autant plus nécessaire que le monde a profondément changé. L'Allemagne a une vision bien ancrée, elle n'en changera pas. Elle a pour sa raison. C'est une grande nation industrielle, fondée sur des activités productives marchandes, dont les performances assurent l'indépendance et le respect, adaptées aux marchés mondiaux, productives, exportatrices, dont la croissance et le plan d'emploi assurent la cohésion sociale et nationale. Point barre. Je suis capable de vous résumer ça. Faisons la même chose pour la France. Comment peut-on résumer en 3-4 lignes notre projet? Il y a plusieurs choix de vision à notre pays. On pourrait décider de devenir l'exemple de la société de la connaissance. Moi, j'y serais très favorable. Et de se donner un axe, et on multiplie les mesures qui donneront un sens à la réforme pour devenir la grande société de la connaissance du XXIe siècle. Où la France pourrait devenir l'exemple de la nouvelle société post-industrielle, et où les services joueraient un rôle essentiel. Voilà, on a un axe, nous allons incarner la nouvelle société post-industrielle, et on se donne les moyens, toutes les réformes sont orientées en ce sens. On pourrait devenir l'exemple de la société d'un État réinventé. La France a inventé l'État il y a 2 siècles. Depuis, il n'y a pas trop touché. On pourrait dire nous avons être l'exemple d'un modèle dans lequel nous allons procéder à des réformes qui permettra à un État d'être mieux gouverné, mieux mobiliser les citoyens, mieux articulé avec la société civile. À la limite, c'est les choix politiques fondamentaux. Et après, les réformes devraient s'enchaîner à partir du moment où nous avons la vision. Et c'est relativement simple. Redresser les performances globales de la France passe dans tous les cas. Qu'on devienne la grande société de la connaissance, la société de l'État réinventé ou la société post-industrielle, redresser les performances globales de la France passe déjà par un grand rééquilibrage. Ça, c'est une constante. Le grand rééquilibrage, c'est le poids hypertrophié du secteur public, lato sensu, en France, par rapport à la société civile. Vous pouvez prendre toutes les comparaisons du monde. Nous avons déséquilibré notre société, notre pays. Et c'est vrai lorsqu'on regarde les prélèvements obligatoires en pourcentage du PIB. En 2015, 45% en France, 36,9% en Allemagne. 9 points d'écart. Mais c'est vrai avec le Royaume-Uni, c'est vrai avec la Suède, c'est vrai avec le Canada. Donc rééquilibrer la société civile pour lui redonner la priorité. On prend les dépenses publiques et sociales dans le PIB. En 2015, l'écart est encore plus impressionnant puisqu'elle s'est élevée à 57% en France, 44% en Allemagne. Évidemment, ils n'ont pas de déficit. Donc 57 à 44, mais c'est immense comme écart de nouveau. Donc rééquilibrer société civile et société étatique, 13 points d'écart, 14 points avec le Royaume-Uni. Donc c'est là où on voit qu'on a divergé dans le passé. Et se dire divergence, il faut maintenant engager la marche arrière, comme je dis, pour pouvoir rééquilibrer la société. Je crois que c'est absolument un impératif, notamment parce que la société civile s'adapte plus facilement, se transforme plus facilement que la société étatique, qui est incontestablement moins apte à la réforme, comme on peut le voir en matière de gestion du personnel du secteur public et de gestion du personnel dans le secteur privé aujourd'hui. Le nombre d'agents publics en pourcentage de la population active, c'est les chiffres de l'OCDE. Secteur public représentait 24% de la population active en France, contre 14% en Allemagne. Que l'on prenne le PIB, que l'on prenne les dépenses obligatoires, que l'on prenne le nombre d'agents publics, de toute façon, nous sommes pas loin, nous sommes très loin de la situation de notre principal partenaire. Et donc, il faut se donner un programme volontariste de réduction des dépenses publiques et sociales en 10 ans, de l'ordre de 13 points de PIB. C'est impossible. Vous n'y pensez pas. La France n'est pas prête. Non, non. c'est tout à fait possible, puisque d'autres pays comme l'Allemagne nous l'a montré. Simplement, il faut le courage, la ténacité et surtout le fait de vouloir surtout ne pas renoncer à ce programme en milieu de chemin. On ne s'arrête pas au milieu du gué, comme on a eu tendance à le faire trop simplement. Donc il faut réduire substantiellement le nombre d'agents publics, fonctionnaires et contractuels, pour avoir un ratio d'un fonctionnaire pour 7 Français actifs, au lieu de 1 pour 4 actuellement. C'est le rapport de l'Allemagne. Et donc, encore une fois, inspirons-nous de notre... C'est le grand basculement pour moi vers la société civile. Ça passe par des dévolutions. Je ne suis pas pour la décentralisation. La décentralisation à la française n'a pas marché, n'a pas eu les vertus qu'on voulait. La dévolution est un terme auquel j'aime. Il faut dévoluer des pouvoirs au terme desquels l'État doit renoncer à certaines activités au profit des acteurs de la société civile, ce qui suppose de définir correctement ce qui relève de l'action publique et de ce qui ne relève pas. Donc il ne s'agit pas de décentraliser ou de déconcentrer, mais de faire des dévolutions. Dévolution aux entreprises, tout d'abord. Donner aux entreprises des moyens de poursuivre leur propre transformation. Inverser la hiérarchie des normes du droit social, afin que les relations du travail tiennent mieux compte des réalités microéconomiques du marché du travail. Il faut reconnaître la supériorité du contrat au niveau de l'entreprise par rapport à la convention au niveau de la branche. Bref, une dévolution au monde de l'entreprise de leur responsabilité d'organiser le travail. Et il faut inverser la fameuse pyramide des normes, dont la base large devrait être contractuelle. Dévolution aux partenaires sociaux, ensuite. Les partenaires sociaux doivent pouvoir négocier librement dans l'entreprise comme en Allemagne, dans le cadre d'un ordre public social européen. Pour faciliter ce dialogue, il faut évidemment repenser la représentativité syndicale, qui ne correspond pas à ce qu'il nous faut. Les syndicats français ne marchent pas. Il y en a trop, 5, 6, je ne sais pas, si on rajoute Sud. Et deux, ils sont trop. Le nombre de syndiqués le plus bas de la communauté, nous sommes juste avant la Slovénie, et ils ont des droits formels supérieurs aux ceux des autres pays. Donc pas de droits réels. Et en plus, on a mélangé syndicats de la fonction publique et syndicats du secteur privé. Tout ceci, très honnêtement, il faut changer la représentativité syndicale, trouver des règles, l'ordolibéralisme, des règles nouvelles. Une dévolution aux régions, également l'exemple des lenders allemands. Pour le moment, la décentralisation ne fonctionne pas. Donc il faut une vraie dévolution, ce qu'a fait d'ailleurs le Royaume-Uni. Ce que fait l'Allemagne, les lenders sont des agents politiques parce qu'ils ont aussi une responsabilité en matière de ressources dans les régions. Donc on n'a pas de responsabilité politique si on n'a qu'une responsabilité des dépenses sans responsabilité des prélèvements. Dévolution aux acteurs de la connaissance, enfin. Les universités, centres de recherche devraient être rendus autonomes, mis en concurrence, avec les responsabilités et les pouvoirs administratifs et financiers nécessaires pour relever les défis de cette concurrence. C'est pour ça que, à mon sens, l'université doit avoir la possibilité de décider du recrutement et de la rémunération des enseignants, du contenu des programmes, de l'introduction de droits d'inscription et de l'attribution de bourses. Nos grandes universités sont en concurrence avec les grandes universités européennes et mondiales. Et il faut leur donner les moyens de cette concurrence et non pas les laisser sous une tutelle administrative du bureau B12 qui décide de l'attribution d'un poste après une trentaine de démarches faites par les plus hautes autorités de l'université en question. Donc je souhaite la revivification de la société civile, comme l'Allemagne. Donc c'est un problème de composition de la société, et ça passe par toutes les mesures que j'ai indiquées. Les mesures sont faites pour cette réoxygénation de la société civile et pour, en fait, la réhabilitation de l'État. Recentrer l'État sur ses missions régaliennes, bien entendu, c'est absolument fondamental, qui cesse de ponctionner les ressources de la nation, ça c'est le retour à un excédent budgétaire. Clarification de la protection sociale, la construction sociale française auquel tout le monde est attaché est la plus baroque de la communauté. Je défie quiconque de pouvoir décrire. C'est du baroque, c'est du mauvais baroque. Oui, c'est du baroque dans lequel on ne sait plus ce qui soutient, ce qui soutient pas. On a mis de la peinture un peu partout. On rajoute des fresques. Bon, on ne sait pas exactement ce que. Surtout, on dit que c'est très doré, mais la plupart. Il faut effectivement retrouver des responsabilités dans le domaine social. Le financement de la protection sociale est absolument incompréhensible. On met l'impôt, CSG, taxes. Cotisations sociales plafonnées, déplafonnées, différentes. Enfin, regardez une feuille de paye allemande, une feuille de paye française. Je veux dire, vous divisez le nombre de lignes en Allemagne par deux. Ça fait un projet depuis longtemps. Ça prouve bien que notre système est baroque quand on rajoute des coups de peinture et des coups de pinceau. C'est la confusion. Et en ce qui me concerne, je vais aller très très vite, un grand régime de retraite unifiant tous les régimes de base, les régimes complémentaires, les régimes spéciaux, qui restera en répartition, avec une pension calculée en points. On me dit ça prend 20 ans. Les régimes de retraite par répartition sont éternels. Et donc on a le temps devant nous pour faire pendant 20 ans ce régime qui respecterait les trois principes de Beveridge, uniformité, universalité et unité. Nous n'en sommes pas là et on aurait résolu notre problème de retraite. Bon, le financement de la santé doit être, quant à lui, fiscalisé, et les prestations doivent faire l'objet d'un cahier des charges fixé par l'État. Je souhaite que l'assurance chômage soit gérée par l'État, comme l'Allemagne. D'ailleurs, c'était une des grandes lois Hartz, qui a été de dire l'État est responsable de l'indemnisation des chômeurs, a mis des sanctions, a réduit le temps d'indemnisation, a incité au retour au travail. Le résultat est là, le taux de chômage est inférieur de deux fois au nôtre. Je ne crois pas du tout à Pôle emploi, je vais vous le dire très honnêtement, et je considère que le déficit de l'UNEDIC de 4 milliards par an est absolument insupportable, et que les 28 milliards d'endettement cumulés depuis une quinzaine d'années montrent que nous ne sommes pas capables de gérer tout ceci. Bref, je vais aller... J'aimerais aussi, en dehors des prélèvements obligatoires, la maîtrise de l'activité législative et réglementaire. J'ai beaucoup de juristes amis dans cette salle. En France, on légifère trop, à tout propos, et on légifère mal. Regardez les données. Il y a eu... Je donne ça. Les données disponibles montrent une activité législative et réglementaire croissante en France et largement supérieure à celle de l'Allemagne. 420 lois ont été adoptées au cours de la mandature actuelle. La législature actuelle. 420 lois... 76 lois en moyenne par an, contre seulement une trentaine en Allemagne, 28. Donc, recommençons à bien légiférer. Un État bien ordonné légifère bien. Et la société civile comprend les lois et l'ordre social. Je ne vais pas développer tout ceci. Il faut évidemment privilégier le contrat et la convention. On éradique les déficits publics et sociaux comme en Allemagne et on rétablit l'unicité de la responsabilité politique. Je suis désolé, le pays qui marche bien, c'est quand le leader, investi par la démocratie, est responsable de son parti, responsable de l'État et responsable de sa majorité parlementaire. Mais la diarchie, à l'heure actuelle, très honnêtement, dans une société moderne, ne fonctionne pas. Et on en a la preuve, j'allais dire, patente au cours des 5 dernières années. Voilà. Je terminerai en disant que le second grand balancement, j'ai plus le temps de développer... Le texte sera disponible. Il faut retrouver une économie d'accumulation plutôt qu'une économie de répartition. C'est un extraordinaire changement d'axe en France. Accumuler savoir, connaissance, capital, accumuler, plutôt que de répartir en permanence. On a une obsession de la répartition, mais qui a obstrué tout principe qu'une société qui se développe est en train d'accumuler. Donc il faut basculer notre économie de consommation et de répartition d'une richesse stagnante vers une économie d'accumulation et de création de richesse. Il faut passer d'une économie qui privilégie les loisirs et l'inactivité à une économie qui valorise le travail et l'effort, comme en Allemagne. Il faut inverser la décélération de la productivité, qui est l'une des plus marquées au sein de l'OCDE. Ça, c'est fondamental pour moi. Il faut dire à nos citoyens que si notre pays ne reprend pas un sentier d'accumulation sous toutes ses formes, les classements PISA de notre pays auraient dû donner immédiatement là, à une réunion nationale pour dire comment se fait-il. Tiens, l'Allemagne aussi a vu ses classements PISA il y a une quinzaine d'années se dégrader. Et ils ont pris des décisions aussi dans la loi Hartz, pour ceux qui s'en souviennent, de remettre un extraordinaire coup de projecteur sur la rénovation de l'école. Les résultats se sont fait sentir puisque les classements PISA sont supérieurs aux nôtres. C'est possible, c'est encore une fois un message d'espoir. Et l'idée était relativement simple, il fallait demander aux profs de rester à l'école au-delà de leurs heures d'enseignement pour pouvoir accompagner les étudiants et les élèves qui n'étaient pas capables de suivre leurs cours. C'est pas des grandes idées géniales, c'est une idée forte dans laquelle on demande simplement aux enseignants de faire leur métier. Le classement PISA montre que notre stock de capital... Bon, je ne dirai pas, parce qu'on reviendra sur ces points, Monsieur le Président, sur l'incitation à l'épargne longue productive, fonds de pension. On oublie que les lois Hartz et M. Schröder ont introduit les fonds de pension en Allemagne, alors qu'ils étaient comme nous tout en répartition, et qu'à l'heure actuelle, ça permet un financement de l'Allemagne qui est extrêmement propice. Voilà. Il faut inverser les priorités, vous avez bien compris. Inciter les Français à travailler plus, je sais que, et revaloriser le travail. Ne pas fermer la porte aux flux migratoires entrants, mais être sûr qu'on forme les gens qui rejoignent notre territoire. C'est mon sentiment. Il faut que notre marché du travail retrouve la fongibilité dont il a besoin pour fonctionner équilibré. Il y aura une session dédiée, je crois, par M. Cahuc à cette dossier. Refondation de l'école et l'université, refonder la formation professionnelle, encourager les liens entre la recherche et les entreprises. Et enfin, que les pouvoirs publics encouragent nos concitoyens et leurs enfants à acquérir des conséquences. Tout ceci doit-il se faire séquentiellement ? La réponse est non, chers confrères. Parce que si on fait ça séquentiellement, on n'a plus le temps. On aurait eu le temps de faire tout ceci si notre pays avait un projet qu'il aurait développé progressivement, rénover l'école, l'université, le marché du travail, son système législatif, son système administratif. Et nous n'avons plus le temps. Et dans la question que m'a posée le président, il y a urgent. La réponse, l'urgence, est pour moi absolue, parce que le décrochage par nos partenaires est véritablement trop important. Je suis confiant que notre pays, à chaque fois, l'a montré dans l'histoire, comme Voltaire disait, je suis confiant qu'on peut y arriver. Le destin n'est pas bouclé, et je suis le contraire d'un pessimiste. Mais il y a une urgence absolue pour procéder à ces transformations. Je n'aime plus le mot réforme. Il a été dévalorisé, galvaudé. Non, à des transformations. Et de permettre au pays de se transformer pour s'adapter, il faut les mener tout de suite, de front, de façon à ce que les bénéfices de ces transformations apparaissent le plus rapidement possible aux yeux de nos concitoyens, et du coup, ils y adhéreront d'autant plus volontiers. Merci.
Merci, cher Denis, de cet exposé qui répond tout à fait à nos attentes. J'ai un grand nombre de questions qui vont vous être posées. Et donc, si vous le voulez bien, vous répondez à chacune d'entre elles. Je vais adopter cette méthode qui avait été mise en place par mon prédécesseur. Nous allons répondre question par question. Et donc, vous pouvez répondre, si possible, assez brièvement, puisqu'elles sont nombreuses. Yvon Gattaz.
Bien sûr, j'ai été enthousiasmé par l'exposé de Denis Kessler. Vous ne vous étonnerez pas, nos confrères savent que nous avons eu l'un après l'autre des responsabilités voisines pour la défense et la promotion des entreprises françaises. Nous avons tenu à l'époque des langages tout à fait voisins. Donc la proximité de nos idées ne vous étonneront pas. Il a fait un plaidoyer magnifique pour le prochain président de la République. Je n'ose pas proposer à nos confrères de demander ce que Denis soit notre représentant pour la prochaine présidentielle. Mais en tout cas, il nous a livré un message d'espoir final. Et c'est vrai, il a raison. Les Français, cher Denis, sont les plus laxistes dans le bien-être, mais sont sans doute les plus acharnés dans la difficulté. Et le problème des Français, me semble-t-il, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les difficultés. Quand on leur dit « nous sommes en grande difficulté », les Français répondent « c'est pas vrai ». « Nous allons très bien, nous allons au restaurant et au cinéma », c'est pas vrai. Donc le problème, et ces courbes sont magnifiques, car elles sont indiscutables. Les 15 courbes de Denis sont merveilleuses. Je n'en conteste aucune des 15, et il a tout à fait raison. Simplement, quatre petites remarques au passage, qui sont d'ailleurs, qui découlent un petit peu de l'article qu'avait fait Pierre Gattaz dans le Figaro du 27 décembre, c'est très récent, où il avait proposé quatre réformes pour relancer le plein emploi en France. Car je crois que si vous fixez un objectif, cher Denis, on ne peut pas avoir 200 priorités. Il faut la priorité des priorités. Quelle doit être cette priorité pour la France? À mon avis, il n'y a aucun doute, c'est l'emploi. Avant la sécurité, avant la formation, avant la culture, avant toutes ces priorités que je ne conteste nullement. Mais si vous créez une hiérarchie, ben moi j'aimerais que ce soit l'emploi qui soit en tête et que toutes les autres priorités s'inclinent devant celle-là. L'emploi, 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 vous savez, c'est mon obsession et je crois que ça sera bientôt l'obsession de tous les pays du monde, car la mécanisation, la robotisation, la numérisation, la digitalisation et tous les mots en sion font réduire les emplois. Finalement, personne n'ose le dire, mais personne, tout le monde ne pense qu'à une chose, supprimer des emplois. Ça a commencé par les poissonneurs du métro, mais on ne pense qu'à ça. Et alors l'emploi est la grande victime de la modernisation actuelle. Alors reprenons les quatre points de Pierre, si vous voulez, très rapidement. Fiscalité, législation sociale, environnement administratif et réglementaire, et formation, éducation, jeunesse, entreprise. Salut nos deux vice-présidents qui sont là, tentent de jouer un rôle primordial depuis 30 ans dans ce domaine. Bon, la fiscalité, tu l'as très bien dit, cher Denis, nous sommes pas les meilleurs, puisque ça va aller très vite. Rien que la fiscalité des entreprises est, pour la France, 100 milliards de plus, comme tu l'as dit, 100 milliards de plus qu'en Allemagne, rien que ça, c'est effrayant. Entre 2006 et 2014, l'impôt sur les sociétés a diminué en Allemagne de 9%, augmenté en France de 1%. Nous sommes d'ailleurs le seul pays d'Europe où cette fiscalité a augmenté. Point 1, oui, c'est rapide, cher Président. Point 2, législation sociale. Alors là, elle est étouffante, elle est une des raisons principales de la stagnation des entreprises françaises qui n'osent pas embaucher. Cette fameuse peur de l'embauche, qui est psychotique chez les chefs d'entreprise, ridicule, maladif, etc., elle est justifiée. Tous les chefs d'entreprise que je connais, en particulier les PME, les ETI, que je connais assez bien, ne veulent pas embaucher, de peur de ne pas pouvoir réduire leurs effectifs s'il y a suppression ou ralentissement des commandes. Cette peur de l'embauche est un des drames de la France. Et les réformes Schröder, dont a beaucoup parlé Denis Kessler, sur les propositions de Peter Hartz, ont été absolument géniales. Schröder a été le grand homme de l'Allemagne, mal récompensé in fine, exactement comme Margaret Thatcher en 89, vous rappelez, après avoir fait ce qu'elle avait fait pour la Grande-Bretagne, elle a été éliminée par son propre parti en 89. Bon. Alors, ensuite, donc ça, la législation sociale est dramatique.
Président.
Alors, deux petits points, je termine. Il faut de la flexibilité, il n'y a aucun doute. On y arrive. On le sait d'ailleurs depuis la suppression de l'autorisation de licenciement en 86, qui a permis de sauver 375 000 emplois, alors que tout le monde disait que ça allait favoriser les licenciements.
Absolument. Et que vous avez obtenu à l'époque, Président. Voilà. Denis, que vous aviez obtenu à l'époque.
Alors,
voilà. Oui. On passe la parole à Denis pour qu'il vous réponde.
Je vais dire qu'un mot. Je ne suis pas d'accord avec Yvon Gattaz. Sur le fait que l'objectif soit l'emploi. L'objectif, que ça soit bien clair, il est la création de richesses pour l'ensemble des Français, pour préparer l'avenir. L'emploi est un moyen, pour moi, je veux dire. C'est pas une fin en soi. C'est très important, parce que l'amélioration de la création de richesses bénéficie à tous les Français.
Mais si on le fait en supprimant tous les emplois,
Non. Je dis bien... C'est bien l'erreur, à mon avis politique, c'est de dire l'emploi est la fin. L'emploi n'est pas la fin. La fin, c'est une société qui arrive à créer de la richesse pour l'ensemble de ses membres. Et c'est ça ce qui forge le consensus national. C'est ça ce qui va forger, que ce soit retraité, actif, tous les gars sociaux. Et après, on regarde comment parvenir à cette création de richesse. Et donc l'emploi est un des moyens pour y parvenir, avec le capital, la technologie, la recherche. C'est vraiment un des problèmes que l'on a en France, c'est d'avoir inversé les fins et les moyens. Enfin, c'est ce que... J'aimerais dire sur... Au-delà de la création de richesses, je crois que notre destin collectif, c'est de ne pas laisser aux générations qui viennent une situation tellement dégradée en matière de finances publiques, de finances sociales et de compétitivité, qu'ils ne trouveront pas leur place dans le monde. Donc, en dehors de la création de richesses, il y a un devoir impératif de refaire un destin aux générations qui viennent. Autrement, nous aurons des problèmes qui vont s'accumuler. Donc, c'est double axe de retrouver une maîtrise du long terme, pour moi. C'est pour ça que je parle toujours de projet et de vision. Un axe de long terme qui permettent d'éviter que les générations futures partent dans la vie avec peu de capital humain, peu de capital matériel et des dettes à rembourser, mais c'est l'indignité nationale pour moi. Donc il faut remettre les générations futures au cœur de notre projet, la création de richesses, et trouver les moyens de parvenir à la création de richesses, y compris par des nouvelles formes d'emploi ou l'utilisation des robots, ou trouver des machines, de l'investissement, et ça. Donc c'est vraiment le retour à l'accumulation qui est fondamental.
Merci, Jean Béchler.
Merci, Monsieur le Président. J'ai hâte de vivre dans cette société transformée par vous. Le mot de réforme ne me répugne pas, donc je utiliserai le mot de réforme. Lorsqu'on parle de réforme, on est amené à distinguer trois dimensions fondamentales. Vous en avez traité surtout de deux, une dimension technique. Quelles sont les valeurs qu'il faut imposer aux différents paramètres d'un système pour qu'il soit le mieux approprié au but poursuivi. C'est le ziel, puisque nous sommes entre germaniques, si vous voulez. Dimension technique. Bon, vous en avez longuement parlé. Vous avez une deuxième dimension éthique. Quel est le zweck? Quelle est la fin poursuivie? Je vous félicite, vous savez à quel point, d'avoir utilisé à plusieurs reprises le mot fin et jamais le mot valeur ni idéal. Bravo. Bon. Mais il y a une troisième dimension à laquelle vous avez beaucoup moins fait allusion et qui est la dimension politique, que je résumerai de la manière suivante. Qui s'opposera en mobilisant quels moyens et quels arguments aux réformes proposées par les gens de bon sens? Et deuxièmement, qui aura le courage et la capacité à mobiliser des moyens pour surmonter cet obstacle et se conformer, somme toute, à la définition qu'a donnée de l'art politique brillant, il y a fort longtemps, marier le souhaitable et le possible. Autrement dit, voyez-vous les forces, quelles forces politiques voyez-vous en France capables de briser, si vous voulez, les intérêts coalisés qui font en sorte que les réformes, jusqu'ici, n'ont jamais été effectuées?
Denis,
Il est normal, cher confrère, que le mot réforme en Allemagne ait une connotation positive, puisque la réforme religieuse a été un des fondements de son ordre social. Donc, la réforme en Allemagne, je franchis le Rhin, le mot réforme devient positif, et le protestantisme devient également positif, alors qu'il est plutôt perçu négativement dans notre pays. Donc oui, la réforme a été toujours pensée comme un vecteur d'un progrès dans cette partie rhénane du monde. Enfin, faut le rappeler. Vous le savez mieux que moi, en plus. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être un débat, alors, dans lequel je ne veux pas entrer, sur les fondements du capitalisme. Et pourquoi, dans notre pays, Max Weber a traité de l'Allemagne, mais n'a pas traité de la France, simplement parce que c'est vrai que, historiquement, nous n'avons pas forcément, un substrat, notamment, en termes de valeurs, qui soient propices au développement du capitalisme. Et on l'a s'est heurté. Je veux dire, Jacques Le Goff l'avait montré en son temps, et beaucoup de travail vous le montrer. Mais je ne veux pas entrer sur... Je veux dire simplement, la dernière question est la plus importante pour moi. Effectivement, qui aura le courage de procéder aux réformes? Quelles conditions réunir pour le faire? Je pense que plusieurs fois dans l'histoire, en France, on est arrivé... 58 est un bon exemple, parce que quand on étudie 58... Plusieurs fois dans l'histoire, la France est arrivée à retrouver, d'un coup de pied, de l'âne, au fond de la piscine, essaye de remobiliser des forces, retrouver un destin collectif, forge. Généralement, comme je disais dans la crise, je pense qu'on n'en est pas loin. Évidemment, il faudra une mobilisation générale des forces vives de la nation autour d'un projet, comme je dis, de réoxygénation de notre pays qui ne supporte plus le déclin, le chômage, la stagnation, voire la décadence. C'est là où nous en sommes. Donc à un moment, ça se produit, et je pense que le moment est venu de décréter cette espèce de mobilisation des forces vives de la nation autour d'un programme d'extraordinaire revitalisation de notre pays. Et là, le choix, il est devant nous. Hein, c'est le déclin, puis la décadence. Et je vais dire le troisième terme, qui est le pire en français, ça s'appelle la déchéance. Parce que la déchéance, c'est ne pas payer ses échéances. C'est le pire terme, décadence, déchéance. Une famille déchue, elle ne paye pas ses dettes. Eh bien, nous avons une situation dans laquelle, si nous ne mettons pas fin à la décadence, nous allons entrer en déchéance. Ce qui est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on sera en train de mendier auprès d'organisations internationales ou de l'Allemagne, de quoi faire les fins de mois du pays, mais c'est absolument insupportable. Donc c'est le problème qui est là. C'est la prise de conscience, je l'espère, de notre pays, de notre peuple, fera que, pour échapper à un destin qui est à mon avis mortifère, nous décidions enfin de reprendre notre destin en main, qui consiste à faire ces réformes absolument fondamentales pour remettre notre pays au diapason du monde. Alors, qui va porter ça? C'est toujours le problème du grand homme en France, comme chez Hegel. Mais je n'entrerai pas dans cette partie politique, parce que je suis qu'un modeste économiste et que Michel m'a demandé de m'abstenir de tout commentaire politique et de me borner à essayer d'indiquer les modestes voies qui me permettraient d'aller dans cette voie.
Merci, Xavier Darcos.
Merci, Monsieur le Président. C'est vrai, j'avais demandé la parole avant que Denis arrive à sa péroraison. Il a dit un mot de la question que je voulais poser, qui est celle-ci. Est-ce que dans la réflexion qui est conduite ici sur les performances de l'Allemagne, il ne faudrait pas introduire le fait que c'est un État fédéral? Car on constate que chaque lande, au fond, a une identification très forte. Et au moins dans trois domaines, lorsqu'on pense lande, on pense activité économique. Lorsqu'on pense à Bavière, on pense BMW, on pense Puma, on pense Allianz. Lorsqu'on pense Hambourg, on pense construction navale, aéronautique. lorsqu'on pense au modèle rhénan dont parlait un de nos confrères disparus. Donc il y a cette identification au fond de l'entreprise puissante à sa région et s'inscrivant dans sa région, trouvant ses supports, trouvant sa reconnaissance, trouvant ses employés, et ça aide certainement à son développement. Le deuxième domaine, c'est évidemment celui du dialogue social. Ce qui a été tellement reproché à la Comrie, qui a provoqué des hystéries dans la rue, c'est précisément ce qui se pratique tout le temps en Allemagne, c'est-à-dire que la discussion se fait au niveau de l'entreprise. Il y a une hiérarchisation des normes, et du coup, le dialogue social va beaucoup plus vite. Et enfin, le troisième point, qui n'est pas le plus négligeable, c'est la formation. Parce que très justement, vous avez rappelé à quel point l'Allemagne a eu un sursaut il y a une vingtaine d'années à la suite de publications qui lui étaient très négatives. Or, l'Allemagne est à près d'un point et demi en dessous de la France en termes de dépenses par rapport à son PIB, puisque l'Allemagne dépense 5,1% de son PIB pour l'éducation, alors que la France 6,2%, ce qui est supérieur d'ailleurs à la norme de l'OCDE. Donc, je crois qu'une grande partie du fait que le système scolaire allemand est plus efficace, c'est précisément qu'il s'inscrit dans des politiques de proximité, dans un bassin d'emploi clairement identifié, dans un système duel qui favorise son efficacité. Donc voilà ma question. Est-ce que, au fond, on n'aurait pas dû introduire ce petit élément, peut-être, dans la réflexion?
Je suis d'accord sur les trois. D'abord, sur les lenders, ce qui me semble très important. Beaucoup des responsables politiques français viennent de villes. Un ville et un lender, ça n'a rien à voir. Dans la ville, il n'y a pas beaucoup d'activités productives entre nous, au sens de industriel, par exemple. Et donc, c'est surtout un centre de dépenses, une ville, qu'on y pense. De répartition. On lève un peu l'impôt, on reçoit des dotations, on le répartit un peu sur le... Mais un lender, c'est un pays. Un lender allemand est aussi important que la Belgique ou que la Hollande en tant que telle. Donc, on doit faire tous les équilibres politiques, y compris entre les activités productives, les activités de redistribution, etc. Et je pense qu'un des problèmes que l'on a, c'est que, par exemple, le socialisme municipal, comme je l'appelle depuis 5 ans, on a mis des gens qui n'avaient que l'expérience de la gestion d'une ville. C'est tout à fait le personnel politique allemand qui monte au niveau à gérer des lendes, à gérer des pays avec toute la complexité, beaucoup plus, qui sont un peu en concurrence les uns avec les autres, parce que, comme vous le savez, les entreprises allemandes peuvent bouger au sein de... Donc oui, le fédéralisme est un avantage. Et je pense qu'un fédéralisme, attention, avec ressources levées par les lenders, qui permet d'avoir une responsabilisation du personnel politique. Et je trouve que la voie qui devrait être la nôtre, c'est effectivement d'avoir des régions puissantes, avoir la capacité de lever l'impôt et de mettre en œuvre des politiques à leur niveau. D'accord sur le dialogue social, mais prendre un exemple. Arts, c'est le directeur des ressources humaines de Volkswagen. À l'époque, 350 000 ou 400 000 salariés. Madame El Khomri était responsable de la petite enfance à la ville de Paris. Je veux dire, j'ai fait du dialogue social, Michel, pendant, je crois, toute ma vie, et présidé... c'est une des matières les plus complexes à comprendre. Il y a une histoire, rien que comprendre l'histoire des syndicats, l'histoire sociale française, etc. Comment voulez-vous instituer ministre du Travail et procéder à réformes majeures avec une expérience municipale qui n'a rien à voir avec ceci? C'est une erreur de casting, comme on dit dans le monde moderne, mais ça montre aussi comment on ne comprend pas. On dit le social, c'est fondamental, mais utilisez les plus grands experts, les plus grands cerveaux, les plus grands réformateurs. Il s'agit maintenant de... Bon, donc je suis d'accord avec ça, donc d'accord pour la pyramide inversée, et d'être... Ça, c'est un problème majeur en France, et une réforme des syndicats et de la représentation syndicale. Mais je suis d'accord sur la formation. L'appareil de formation professionnelle est déficient, y compris ceux représentés par les entreprises et les branches. Et je pense que l'Allemagne a effectivement une capacité à insérer les jeunes dans le système productif que nous n'avons pas. Si je devais faire une des priorités immédiates, ça serait effectivement ça, c'est-à-dire de permettre l'insertion des jeunes. Et nous, on a critiqué les mini-jobs, hein, les mini-jobs allemands. Il vaut mieux avoir un job et un salaire que d'être... prise en charge par l'UNEDIC, c'était le choix qu'a fait Schröder. Il faut l'assumer. Je l'assume. Vaut mieux un ich agé, comme il dit, c'est pousser l'auto-entrepreneuriat, que d'avoir des gens qui sont pris en charge par les collectivités. Ça, c'est une question, alors cette fois-ci, de choix et de valeur. Mais en ce qui me concerne, j'ai aucun doute que c'est la voie dans laquelle il faut s'engager. Formation professionnelle très rigoureuse et modification en profondeur du système d'indemnisation du chômage.
Thierry de Montbrial.
Bien, je crois que mon intervention va aller un peu dans le même sens que de Jean Béchler, parce que je crois qu'on ne peut pas abandonner cette question du lien de l'économie et de la politique. Mais d'abord, je voudrais remercier Denis Kessler pour son exposé extrêmement réconfortant en ce début d'année, Mais heureusement, à la fin de son propos, il a dit sa confiance. Alors c'est justement là qu'on revient un peu à la politique. En fait, le diagnostic, il a été posé depuis très longtemps. Je crois que le livre « Notre Europe », qui a eu un immense succès, si ma mémoire est bonne, est paru en 1999, l'année justement du document Blair-Schröder. Moi-même, quand j'avais présidé l'Académie en 2001, j'avais pris comme thème « La France du nouveau siècle ». On avait traité beaucoup de ces thèmes-là. Et le diagnostic était essentiellement le même. Donc il ne s'est rien passé depuis. Donc ça nous amène nécessairement à la politique. Qu'est-ce qu'on voit ? Alain Duhamel s'en va juste au moment où j'allais dire que Fillon est en train de perdre du terrain chaque jour. C'est-à-dire que l'élection de Fillon est moins qu'assurée. Il s'en va. Et plus il va défendre des thèmes comme ceux que tu as défendus, et plus il a des chances de perdre des voix. Alors on ne peut pas ne pas traiter en même temps, je crois, l'économie et la politique. C'est la question de Jean Béchler. Et c'est pas seulement une question de grand homme, c'est une question de rapport de force, de coalition. Et où sont ces coalitions ? Alors je conclue... Si rien ne se passe, ce qui personnellement me paraît hélas l'hypothèse la plus vraisemblable, à ce moment-là, comment se présentent les 10 prochaines années, cette fameuse déchéance dont tu parles ? Et est-ce que ça veut dire, et là je crois que c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser, que dans ces 10 ans qui viennent, la zone euro éclatera ? Et si la zone euro éclate, ce sera le début de la décomposition de l'Union européenne. Alors que faut-il, et là je rebondis sur un aspect de la fin de ton intervention, que faut-il pour faire prendre conscience à des forces suffisamment étendues que c'est ça l'enjeu, que l'enjeu c'est qu'on se retrouve à un moment où on dira c'est trop tard. Mais que faut-il faire? Je crois qu'il ne suffit pas de nous entendre entre nous, au sein de l'Académie des sciences morales et politiques.
L'Europe nous a sauvés, Thierry. Pour moi, l'Europe nous a sauvés. Quand on regarde la séquence économique et sociale de la période d'après-guerre, je veux dire, très honnêtement, le choix de 1985, puis le passage en 92, puis l'effort qui a permis de réussir le passage à monnaie unique, et j'ai salué tout à l'heure ceux qui ont eu le courage de porter ce projet, qualifié de tenant de la pensée unique, vous vous en souvenez, Fossoyeur, etc. Heureusement que nous avons, tenu dans la barque européenne pendant cette période-là. Et je suis d'accord 100% avec toi, le drame absolu serait aujourd'hui de sortir de l'Europe. Mais cette fois-ci, je veux dire, là, c'est ce que j'appelle la déchéance. C'est pas bien de se poser une question. La déchéance est liée à une sortie d'Europe. Nous n'avons pas les capacités. Et ça se traduira par une dévaluation massive de notre monnaie, par des problèmes financiers insurmontables, par des problèmes de toute nature. Nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons même plus la liberté de faire ce choix. Je ne sais pas si je suis clair. Ce qui prouve que nous... Donc effectivement, l'Europe a été, à mon avis, le garde-fou de notre impéritie. Et si jamais on s'abstenait de la discipline européenne aujourd'hui, je ne sais pas, très honnêtement, là, on rentre en terra incognita, dans laquelle notre pays n'a pas les moyens, je maintiens, de maintenir son rang hors d'une construction européenne repensée. Maintenant, la question politique, c'est à vous tous qu'elle s'adresse, elle ne s'adresse pas à moi. Comment faire en sorte qu'effectivement, comment se fait-il que dans le débat politique à l'heure actuelle, deux extrêmes parlent de la sortie de l'Europe, qui représente plus de la moitié à l'heure actuelle du corps électoral d'après les sondages? Comment se fait-il qu'on ait dévalorisé l'idée européenne au point que ça apparaît repoussoir, bouc émissaire de beaucoup de difficultés? C'est quand même absolument, c'est un drame collectif pour nous et tous ceux qui y ont cru. Donc là, nous avons une responsabilité, tous d'entre nous, de ne pas avoir peut-être porté un projet, de ne pas l'avoir défendu, de ne pas l'avoir assumé, et d'avoir laissé tranquillement l'Europe devenir, comme j'ai dit, la source de nos difficultés. Monnaie unique, il faut être contre monnaie unique. Pas plus tard que dans le Figaro magazine de cette semaine, je lis un papier de deux auteurs, très honnêtement, relativement marginaux, en tout cas, qui ne seraient pas dignes de rejoindre notre académie, à mon avis, et qui s'expriment pleine page pour dire que le mot de tous les mots, c'est l'Europe et la monnaie unique. Que voulez-vous ? Ceci n'est pas dans un journal, brûlot, gauchiste, puisque c'est dans le Figaro magazine. Donc je peux multiplier les exemples. Il est temps de reprendre vraiment combat en faveur de la construction européenne. Je suis très peu. Les fins des crises économiques, c'est toujours les 3 P. C'est connu. Tout historien économique le sait. Les 3 P. Populisme,
protectionnisme et mauvais patriotisme. La loi des 3P s'exerce toujours. On l'a vu dans les années 20 et 30, on l'a vu partout. Eh bien, il est de notre responsabilité de faire en sorte de lutter contre ces trois déviations, ces maladies, parce que ces maladies sont absolument épouvantables pour notre corps social. C'est la raison pour laquelle je suis contre, et je le répète, avec beaucoup de force, le populisme, dont l'anti-européanisme, l'anti-monnaie unique et tout ce qu'on veut. Je suis contre le retour des mesures protectionnistes, alors qu'elles se multiplient à l'heure actuelle. Et faites attention à ce qui se passe aux États-Unis, faites attention à ce qui va se passer au Royaume-Uni. Faisons attention à ça. C'est un bien commun que d'avoir réussi à permettre le libre-échange. Et enfin, faisons très très attention au mauvais patriotisme. J'aime le bon patriotisme, mauvais patriotisme, qui pourrait encore une fois donner une sauce amère. L'Allemagne a compris ça. Et c'est la raison pour laquelle je félicite à l'heure actuelle les leaders politiques allemands d'arriver à tenir bon à l'heure actuelle et ne pas laisser se dévoyer contre l'Europe, contre la monnaie unique, etc. Ça, très honnêtement, chapeau, ce qui montre encore une fois ce message d'espoir. Il faut arriver à retrouver les ressorts qui nous permettent à tous de pouvoir empêcher cette espèce de... Ah, je sais pas, cette perte de confiance dans nous-mêmes et la recherche de solutions faciles. Il n'y a aucune solution facile. Tout ce que j'ai dit et tout ce qu'a fait l'Allemagne, c'est travailler plus, accumuler plus, travailler plus, se former plus, s'éduquer plus et assumer plus de responsabilités. Je crois qu'il n'y a pas d'autre voie.
Jean-Claude Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Je suis à la fois admiratif et atterré après l'exposé de notre ami Denis Kessler, parce que l'ampleur des tâches est à la fois considérable et nécessaire. Mais je voudrais formuler un commentaire en guise de question qui rejoint ce qu'ont dit avant Xavier Darcos et Jean Béchler sur le problème des conditions politiques de la réforme. Parce que Denis Kessler a fait allusion au programme, à la proposition Schröder-Blair. Et on m'a dit, je ne sais pas si c'est exact, il faudrait vérifier, que quand les socialistes français ont refusé de la signer, l'un des dirigeants socialistes, qui allait en 2012 avoir un destin exceptionnel, aurait dit « Tout ça est très bien, mais en France, il y a 5 millions de fonctionnaires et un parti communiste puissant ». Alors, le parti communiste n'est pas très puissant, mais Mélenchon, d'une certaine façon, s'y est substitué. Et on peut comprendre que, pour la gauche française, l'application, disons, la politique de l'offre qu'offraient Blair et Schröder, et qui a d'une certaine façon été formulée par le président de la République, formulée simplement, mais non appliquée, est difficile compte tenu de l'hétérogénéité fondamentale de la gauche française, puisque la gauche allemande social-démocrate est au pouvoir avec Madame Merkel. Les travaillistes, Tony Blair a appliqué, en gros, a conservé la politique Thatcher. Les mutations du socialisme anglais et du socialisme allemand n'ont pas atteint le socialisme français. Et donc on comprend d'une certaine façon. Ce qui est plus mystérieux, et tous les graphiques de Denis Kessler le montrent, c'est que la perception du phénomène du recul de la compétitivité française commence avec les années 2000. Autrement dit, que les gouvernements de droite n'ont pas été capables de résoudre ce problème. Donc ça, c'est plus mystérieux. C'est-à-dire, si l'hétérogénéité de la gauche explique l'impuissance de la gauche, pour la droite, c'est plus mystérieux. Et du coup, on est soumis à plusieurs hypothèses. On peut dire... C'est le caractère national. C'est la France, c'est l'histoire de France, etc. C'est extrêmement discutable, parce que la stabilité monétaire a caractérisé la France du 19e siècle, et longtemps même. De très grandes réformes ont été accomplies, les réformes Poincaré, les réformes de Gaulle en 58, etc. Donc, dans l'histoire économique française, il y a des grands moments de réformes plaçant la France exactement dans l'axe où elle doit être. On peut dire l'absence de courage tacite, qu'on cite souvent, invoquer les Allemands, il les connaissait pas très bien, mais enfin, il voulait donner des conseils aux Romains, il disait, pour mettre en haut de l'État, il faut prendre des plus nobles, mais pour diriger, il faut prendre les plus courageux. Et effectivement, le courage est une vertu politique que la démocratie ne favorise pas. En gros, la qualité du courage, si vous voulez, les gens ne sont pas élus sur ce critère-là. Ils sont plutôt élus aujourd'hui de plus en plus sur la docilité à l'égard de l'opinion. Ce qui s'explique en raison même du mécanisme démocratique. Mais je voudrais conclure sur un point. Ce qui me paraît, ce sur quoi il faut insister dans le cas français, si on écarte les observations malveillantes sur le caractère national ou sur l'absence de courage, c'est quand même notre paradoxe politique. C'est-à-dire que nous avons l'exécutif le plus puissant d'Europe, mais nous ne pouvons pas résoudre le problème du déficit de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est un drôle de paradoxe, si vous voulez, de se donner un exécutif tout puissant et de ne pas pouvoir résoudre ce problème. Alors, est-ce que le défaut n'est pas justement la combinaison d'un exécutif puissant et d'une base électorale politique faible? C'est-à-dire que les hommes politiques français, une fois qu'ils arrivent au pouvoir par l'élection présidentielle ou par l'élection législative, ont en fait, dans le pays, une base politique faible, à la différence de l'Allemagne ou à la différence de la tradition anglaise. Et que peut-être la faiblesse politique française est dans notre institution. Merci.
Je partage beaucoup de tes conclusions, Jean-Claude. Je me souviens, mais c'est vraiment d'un passage d'Alfred Grosser qui disait « Il y a quelque chose de surprenant en Allemagne, c'est que depuis 1945, ils ont été capables de trouver toujours le chancelier correspondant aux besoins de l'époque. » Et quand on regarde, j'aurais dû le dire avant, la période d'après-guerre, ils ont trouvé vraiment la personne qui a permis de remettre l'économie en route. Ils ont trouvé les chanceliers qui ont permis d'accompagner la construction européenne, et sans drame. Ils ont trouvé le chancelier qui a permis la réunification, et encore une fois, avec un choix estonien qui était la monnaie identique dans les deux parties de l'Allemagne, sans doute que la France n'aurait jamais fait à l'époque, à son propre niveau. Je continue. Qui est arrivé à gérer la crise financière dans les bonnes conditions, même si le système bancaire allemand est dans une moins bonne situation que la France, mais ils sont arrivés à gérer tout ça. Et donc, ça, c'est sans doute un paradoxe. Non, c'est ce que je dis. L'Allemagne arrive à produire la femme ou l'homme politique correspondant aux nécessités de l'époque. Et ça, très honnêtement, c'est une démocratie qui fonctionne bien. Parce que ça veut dire, c'est ça le problème, c'est de trier, filtrer, assumer, puis trouver le programme qui correspond à l'intérêt du pays et l'assumer. Alors c'est aussi un problème de courage, mais on a plus de courage qu'on est bien choisi. Donc je ne commenterai pas ça, parce que ça m'éloigne exactement loin de mon terrain, moi, qui est simplement l'économie. Simplement, je dirais, sur ta première remarque, le mur de Berlin est tombé en Allemagne, il n'est toujours pas tombé en France. Ça, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment la grande surprise. Donc le barycentre politique français est toujours mal placé. Et on le voit dans cette préparation d'élections. Je veux dire, on a des débats qui n'ont plus place nulle part ailleurs dans les termes dans lesquels on les place en France. Donc on a un vrai problème qui est ce retard. C'est pour ça que j'ai daté il y a une vingtaine d'années, où nous n'avons pas, pour décrocher l'histoire, je mets ça des décrochages, j'ai parlé des décrochages économiques, je pense aussi des décrochages politiques, qui sont malheureusement beaucoup plus difficiles à résoudre. Donc je partage 100%, Jean-Claude, tes avis. Il va falloir retrouver des forces qui permettent de faire émerger des équipes qui sont prêtes à transformer le pays comme je le souhaite. Et la dimension du courage, malheureusement, n'est pas dans les programmes électoraux.
Jean Robert.
Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, cher Denis, de ce discours et de ce ton rafraîchissant et courageux, très clair. Manifeste libéral, c'est un gros mot que tu n'as pas prononcé, d'ailleurs. Mais le courant libéral n'est guère représenté en France, ni dans la classe politique, ni dans l'enseignement de l'économie. Mais je pense que la section d'économie va nous fournir quelques clés pour comprendre tout ça dans les semaines qui viennent, ni dans la presse, où le courant libéral est extrêmement minoritaire. Il existe, mais vraiment très peu représenté. Et dans je parlais d'économie, mais dans les sciences humaines non plus. Je vois dans ma discipline, en géographie, c'est un discours qui ne toucherait personne, ce que tu as pu dire aujourd'hui, qui est pourtant le bon sens même. Alors ma question, c'est, qui rejoint un peu ce qui a été dit par Jean Béchler, par Xavier Darcos, par Casanova, c'est le candidat à la présidentielle qui retiendrait ce discours jusqu'au bout, jusqu'à l'élection, qui ne l'affadirait pas de semaine en semaine à la demande de ses amis, à la demande de la presse, pour essayer de passer, et qui passerait à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il pourrait, dans notre pays, mettre en œuvre son programme, un programme qui ressemblerait à celui que tu indiques, alors qu'on a laissé, la semaine dernière, un secrétaire général de grande centrale syndicale dire publiquement, sans que personne ne vienne lui porter la contradiction, si de toute façon ce genre de réforme vient à être appliqué, nous descendrons dans la rue et on ne l'appliquera pas. Et on a laissé dire cela et nous donnons des leçons de démocratie au monde arabe, à l'Afrique, à tous les pays en développement. Donc, est-ce que nous pouvons, bon, ça rejoint ce qui a été dit, est-ce que nous pouvons raisonnablement être optimistes? Je n'en suis pas certain. En revanche, ce que je crois, et tu l'as dit à un moment à la fin de ton discours, nous sommes un pays qui est capable de grands efforts, mais en général, dans les très grandes crises, le coup de pied au fond de la piscine, c'est au moment où nous sommes vraiment complètement en train de nous noyer. Et on n'en est pas encore là. Il faut bien reconnaître que, comme l'a dit le président Gattaz, on peut aujourd'hui, un certain nombre de gens sont persuadés que comme ils vont au cinéma et au restaurant, tout ne va pas si mal que ça. Il y a des problèmes, les chiffres sont alarmants, mais tout ne va pas si mal que ça. Et voilà, est-ce qu'il ne faut pas descendre encore plus bas pour qu'un jour les forces vives de ce pays, qui existent mais qui sont en sommeil, qui sont annihilées, qui sont anesthésiées, se réveillent et qu'enfin la France donne le meilleur d'elle-même?
C'est pour ça qu'il faut faire, à mon avis, je reprends pas tout ce que tu as dit, Jean-Bert, mais non. Si effectivement, sur l'art de gouverner, malheureusement, je parle de transformation rapide et urgente, je pense que les ordonnances sont absolument nécessaires. C'est ce qui aurait dû être fait en 2002, n'a pas été fait.
Et la rue.
Aurait dû être fait. Non, mais les ordonnances, une fois qu'elles sont votées, elles sont votées. J'ai rarement vu des gens défiler dans la rue une fois que la loi est passée. De parole d'expérience, vous vérifiez. Depuis 1958, quand la loi est passée, la loi est passée. Qu'on le veuille ou non. Évidemment, si on traîne, tergiverse, attend, etc. Donc, il y a un moment... Oui, c'est un des exemples, mais c'était des questions. Mais il y a une question fondamentale. Dans l'art de gouverner, le courage et prise de décision et l'application, maintenant, il faut savoir gouverner, comme dans une entreprise. Il faut pas avoir... Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aussi qu'il fallait mettre tout le paquet, parce que très honnêtement, si ça s'effiloche, comme d'habitude, le pouvoir politique s'use plus rapidement que l'on s'en sert. Donc, c'est ça, sans doute, la priorité. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. On a parlé, je vais écarter le caractère national. Plusieurs fois, on dit qu'on a un caractère national qui nous empêche de faire des réformes. La réponse, on n'est pas loin, quand même, de difficultés tellement graves que j'espère que la prise de conscience se fera. C'est aux politiques d'expliquer la nécessité de l'époque. Je me souviens d'un passage dans Hegel sur la raison dans l'histoire. Je crois que c'est la fin de la raison dans l'histoire, qui dit « Le grand homme n'est pas en avance sur son temps, il est de son temps, c'est ses contemporains qui sont en retard ». Et ça m'a toujours frappé. Et je pense qu'effectivement, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a passé de gens de leur temps, je veux dire, qui portent un message pour expliquer à des contemporains que le monde a tellement changé que la situation dans laquelle on s'engage est sans issue. Donc le vrai problème, c'est effectivement de faire comprendre les nécessités de l'époque, qui me semble à l'heure actuelle tellement évidente que j'espère qu'elles sont prises en compte dans les choix.
J'aimerais un point, pardon.
Je sais que je suis long, mais il faut faire attention à une chose par rapport à l'Allemagne. Les entreprises allemandes tiennent au Standort. Elles sont plus patriotiques que les nôtres, faut le dire. Bon, et ce qui fait qu'il y a un danger en France, c'est que les grandes entreprises ou les entreprises choisissent d'autres cieux pour produire. Donc, attention, parce que cette déconnexion du coût des entreprises de la nation, ça, c'est une menace fondamentale. Que s'il n'y a pas de réforme dans ce pays, il ne faut pas se poser de questions. Ne croyez pas que les entreprises vont attendre une législature pour essayer de sauver leur système, enfin leur productivité, leur compétitivité. C'est ça ce qui est la principale menace pour la France. On a fait l'Europe, on a fait liberté de circulation des capitaux, liberté d'implantation. Et donc attention, le nationalisme économique allemand est plus fort que le nôtre, et que s'il n'y a pas de réforme, vous allez décourager ceux qui ont choisi la France comme terrain de production. Et regardez les chiffres. Tous les jours qui passent, nous en avons des exemples. Et donc ça serait une dévitalisation économique du pays qui s'expliquerait par notre impéritie politique.
Pierre Delvolvé, une question courte à ajouter.
Pas une question, Monsieur le Président, mais simplement deux chiffres à propos des ordonnances. La panacée universelle. Il y a eu 56 ordonnances en 2015, 85 en 2016 et encore une vingtaine de lois d'habilitation en cours.
Information. Jacques de la Rosière avait les questions suivantes.
Oui, j'ai, comme il peut s'en douter, beaucoup apprécié l'exposé de Denis Kessler, parce qu'il est très cohérent et qu'il est courageux. Et ce sont deux qualités qu'il faut apprécier. Si vous regardez les graphiques présentés, je voulais faire une remarque. Si vous prenez les graphiques sur le chômage et la participation au travail, c'est-à-dire les graphiques 5 et le graphique 6, vous voyez que autour de 1995-2000, la France est dans une situation comparable, voire par moments supérieure, meilleure que celle de l'Allemagne. C'est vrai pour le taux d'emploi, Et c'est vrai pour le chômage. Et donc, on pourrait tirer de ces deux graphiques la notion que, au fond, tout ça, c'est pas si grave parce que on est capable de rebondir. Et on l'a montré, il n'y a pas tellement longtemps, et une quinzaine d'années dans notre histoire. Mais il faut être très prudent si on adopte cette théorie. Parce que, d'une part, il y a un brouillage conjoncturel dans les graphiques 5 et 8 qui vient de la difficulté qu'ont eu les Allemands à traverser et à absorber le problème de la réunification. Et ils l'ont fait pendant un temps au détriment de leurs équilibres publics et aussi de leur emploi. Mais poursuivant mon intérêt pour les travaux de M. Kessler, je regarde le graphique numéro 9. Et c'est celui-là sur lequel je voulais attirer votre attention. Parce que le graphique numéro 9, il est très différent de ceux que je viens de commenter. Car il faut se reporter au début des années 1970 pour avoir une équivalence avec l'Allemagne. Donc c'est pas du tout l'équivalence avec l'Allemagne en 95-2000. C'est l'équivalence avec l'Allemagne en 75. Et depuis, ça ne cesse de diverger. Or, c'est le graphique sur le taux de prélèvement obligatoire. Et moi, je pense, alors j'aimerais avoir l'avis de Denis Kessler sur ce point, mais je pense que ce graphique donne une énorme crédibilité à ce qu'il a dit sur pas de séquencement. Il faut le faire. Et il faut le faire complètement. Et tous les morceaux confondus. En effet, cette divergence qui nous est fatale entre les prélèvements obligatoires en France par rapport au PIB et par rapport à l'Allemagne ne fait que se creuser depuis 1975. Et c'est seulement si on la creuse, si on la renverse, cet écart, que nous pourrons commencer à résoudre les autres problèmes, en particulier le problème du chômage. Donc, il ne faut surtout pas croire que le problème des prélèvements obligatoires est en quelque sorte secondaire. Il a, au point de vue des causalités, à mon avis, un rôle majeur dans les phénomènes de décompétitivité qui sont très bien énoncés par Denis Kessler. Et donc, je l'encourage à la méthode totale.
Je n'ai rien à ajouter. Merci, Jacques.
Jean-Claude Trichet.
Merci, Monsieur le Président. Comme mon prédécesseur, je dois dire que je partage entièrement les analyses et les suggestions de Denis Kessler. Le problème principal étant en effet un problème politique, la dimension politique. J'ai observé moi-même une période où l'Angleterre était considérée comme l'homme malade de l'Europe irrécupérable. Une exaspération de la classe moyenne a conduit à changer complètement la donne. J'ai connu moi-même, y compris en tant que président de la Banque Centrale Européenne, l'époque où mes amis anglo-saxons me disaient « L'Allemagne est l'homme malade de l'Europe. Vous n'arriverez jamais à en sortir. Ils sont sous-compétitifs. » C'était encore la trace de la perte de compétitivité qu'évoquait Jacques de La Rosière. Ils sont en déficit de la balance des paiements courants. L'Allemagne et la France, sous présidence italienne, ont refusé les disciplines ensemble du pacte de stabilité et de croissance. Il y a deux visages. C'est un Janus. Le chancelier, il a eu en effet eu beaucoup de courage pour les réformes et transformations, mais il a quand même péché à ce moment-là. Ça n'a pas eu de conséquences, mais enfin, ça a eu des conséquences pour tous les autres pays, y compris pour le nôtre, de se retrouver en accord avec l'Allemagne pour ne pas appliquer en 2003-2004 le pacte de stabilité et de croissance. Deux questions complémentaires. Si je fais comme Jacques de La Rosière, je reprends le graphique 14. Que j'ai tendance personnellement à considérer comme étant absolument essentiel, c'est les coûts unitaires du travail, les coûts unitaires de production. Accessoirement, d'ailleurs, l'indice, c'est plutôt 95 ou 99, enfin, mais pas 2010. Là, on voit en effet que nous avions une position de surcompétitivité par rapport à l'Allemagne, car ce qui est considéré comme l'égalité en 95 et 99 correspond à une surcompétitivité que nous avons perdue de manière absolument tragique. Je peux considérer que, en gros, les Allemands avaient peut-être 8 points de déficit de compétitivité. Donc en 2003, ils avaient rejoint à peu près notre niveau de compétitivité. Et ensuite, alors, nous nous sommes laissés complètement aller pour arriver à 17 points d'écart, 17 points d'indice d'écart, qui est l'écart tragique que nous avons encore aujourd'hui et dont nous ne parlons jamais, d'ailleurs. Alors j'ai le sentiment que, là, pour le coup, alors la culture allemande aide énormément, parce que il n'y a pas eu de mot d'ordre de désinflation compétitive ou de faible inflation ou de faible coût compétitif en Allemagne. Ce sont les partenaires sociaux qui ont fait cette différence de manière absolument prodigieuse. Et en France, malheureusement, on a abandonné le slogan qui nous avait permis d'arriver au niveau de compétitivité allemand et même de le dominer. On a abandonné ce slogan avec l'euro. C'est le grand paradoxe de l'euro. Il n'y a plus de désinflation compétitive à partir du moment où on avait l'euro et on a laissé aller l'économie de marché. En France, l'économie de marché ne marche pas spontanément. C'est mon sentiment, à cause du fait qu'il n'y a pas ce consensus assez large entre les partenaires sociaux. Et je rejoindrai tout à fait Denis sur l'idée, les grandes entreprises françaises se sont désintéressées de la production compétitive en France. Et nos petites et moyennes entreprises exportatrices ont été étranglées entre le CAC 40 d'un côté, que cela n'intéressait pas vraiment, et puis, bien entendu, le secteur public et parapublic, que ça n'intéresse pas non plus, puisqu'il n'est pas en compétition internationale.
Bien. Rien à rajouter. Deux choses. Et là où tu as raison, Jean-Claude, c'est le message d'espoir, c'est que d'autres pays que l'Allemagne sont arrivés à retrouver un destin économique qui semblait perdu. J'avais mis à l'origine tout ce qui se passait au Royaume-Uni sur les mêmes graphiques. Je peux vous les envoyer. Le Royaume-Uni a aussi été pataugé, c'était épouvantable, est arrivé à connaître un redressement spectaculaire en termes de PIB par tête, de chômage. C'est extraordinaire ce qu'a fait même M. Cameron, rejeté maintenant pour le Brexit, mais depuis 5 ans, 13 ans, d'un point de vue économique, ça a été pour le Royaume-Uni une très belle performance. Je peux citer le Canada, le travail qui a été fait au Canada et devrait être mieux connu, c'est un autre exemple. La Suède, qui est extraordinaire, qui pataugeait, l'Espagne. Donc je reste confiant sur la capacité d'un pays à reprendre en main son destin économique, ce que je disais tout à l'heure. Donc je ne voudrais pas être trop pessimiste. Ceci dit, le temps passe. Deuxième remarque, je trouve que l'Allemagne a mieux géré l'européanisation de son économie, par la spécialisation, par la recherche de l'utilisation de l'Interland d'Europe centrale que nous n'avons pas su utiliser, pour être honnête, et a mieux géré la globalisation de l'économie, c'est-à-dire l'entrée de la Chine à l'OMC il y a maintenant 17 ans. Ça, c'est les deux grands trucs. On avait deux grandes échéances, et je rajoute la troisième, qui était le vieillissement, et c'est commun aux deux pays. L'européanisation, puisque depuis 85, c'était le choix qu'on avait fait. La globalisation, c'est grosso modo l'entrée de la Russie, de la Chine et de tous les pays dans l'OMC. Et trois, le vieillissement, qui est baby-boom, étant encore plus marqué en Allemagne. Et nous avons, sur ces trois sujets, pas été bons. Nous n'avons pas assez préparé l'européanisation, nous n'avons pas assez préparé la globalisation, nous n'avons pas assez préparé le vieillissement. Et donc c'est ça notre problème collectif. Et donc il va falloir mettre les bouchées doubles, comme je disais, et je terminerai là-dessus, parce que fondamentalement, je crois qu'on peut y arriver, mais très honnêtement, vaste chantier, vaste programme, et je souhaite bon courage à ceux qui prendront les rênes du pays pour pouvoir faire ce programme, mais en ce qui concerne, je l'accompagnerai et je soutiendrai.
Une dernière question de Georges-Henri Soutou.
Je vous remercie. Je serai extrêmement bref après votre exposé et vos courbes absolument fantastiques. J'aurais un souhait, c'est que l'on puisse faire l'équivalent du point de vue des 15 graphiques avec l'Espagne et l'Italie. Car je trouve que, de notre point de vue français, la comparaison avec l'Espagne et l'Italie, au moins ne pas faire plus mal que ces deux pays. Alors, j'aurais une question très brutale à vous prononcer. Il me semble, d'après ce que j'ai pu en savoir, que tous les candidats, sans exception, prévoient dans un premier temps d'augmenter notre déficit budgétaire. Même si je ne me suis pas... Dans un premier temps, mais enfin, il y a toujours le premier temps. Alors la question se pose de la réaction dans ce cas-là et de la Commission de Bruxelles, et bien entendu de l'Allemagne. D'après ce que je sais de l'Allemagne, je suis quand même un petit peu, à mon avis, je parle très brutalement, un peu de temps, ils ne nous feront pas de cadeaux. Quel est, sur ce point très précis, cher confrère, votre avis ?
L'Allemagne est lassée, lasse de la France. Je dis avec force, notre perte de crédibilité en Allemagne est absolument considérable. Les années passent, ils ont attendu, à chaque fois on est allé demander des délais, on est allé à Bruxelles pour demander encore un peu de temps. L'Allemagne est extrêmement lassée de la France. Ce qui pose un problème politique majeur, parce que les conséquences européennes de cette lassitude, de cette fatigue allemande vis-à-vis de la France, je parle de fatigue, vous savez, comme on y croit, on espère, on demande, on espère encore un peu, est tout à fait extrêmement préoccupante. Effectivement, vous avez raison qu'à un moment, l'Allemagne pourrait dire, écoutez, c'est bon, enfin, on va pas continuer dans cette situation-là. Il faut faire attention à ça. Et c'est aussi une des menaces. Je parlais tout à l'heure des risques de déchéance ou de démantèlement de l'Europe. Elle pourrait venir de la France, elle pourrait venir de nos partenaires qui considéraient que vraiment ce pays nicht réformierbar. Et donc on ne va pas attendre, on ne va pas porter à bout de bras, on ne va pas. Donc c'est ça, c'est un des très très gros soucis. La fatigue allemande vis-à-vis de la France me semble à l'heure actuelle préoccupante. Alors il y a des échéances dans un an et j'aimerais pas que la France devienne un des objets de l'enjeu politique allemand, comme la Grèce a pu l'être à un moment. Et je forme le vœu que la France ne soit pas l'objet politique allemand, du débat politique allemand, dans un an du type « qu'est-ce qu'on fait de ce pays-là et qu'est-ce qu'on fait de l'Europe ?» Ça serait pour nous, alors cette fois-ci, absolument. Donc il y a deux possibles sorties de l'euro, qui serait pour moi le drame absolu, comme vous avez pu comprendre, parce que nous ne sommes pas capables et qu'on s'en met en dehors, pour des raisons politiques, à la suite de votes calamiteux, ou d'une lassitude de nos partenaires vis-à-vis de la France, qui refuserait à un moment de faire les adaptations et les aménagements que l'on demande en permanence et qui ne semblent déboucher sur rien. Donc oui, le nœud se serre à l'heure actuelle. Le nœud se serre. Le nœud de l'histoire se serre.
Cher Denis, le nombre et la qualité des questions qui vous ont été posées, certains de nos confrères ont finalement décidé de ne pas poser de questions compte tenu de l'heure qui passait, témoigne de l'intérêt et de l'importance de l'exposé que vous avez présenté. Je crois qu'il était difficile de faire mieux que vous une ouverture de l'ensemble de ce programme de conférences sur les problèmes que rencontre aujourd'hui notre pays et qu'il a à traiter dans les années qui viennent. J'avais choisi en effet de faire une comparaison avec l'Allemagne, chers confrères Soutous, c'est ce qui vous a conduit à laisser de côté les autres pays. Hélas, la comparaison avec les autres n'est pas aussi caricaturale, mais elle pose aujourd'hui des problèmes comparables. De sorte que je crois en effet que nous avons besoin actuellement d'une mobilisation de toutes les forces de notre pays pour que la prochaine élection permette en effet à la France de conduire des politiques qui soient susceptibles de la réorienter dans la bonne direction pour les années à venir. Merci en tout cas de nous avoir tracé des pistes aussi nombreuses et aussi fécondes et en même temps aussi synthétiques. Merci beaucoup.